Jusqu'à quel âge vous pensez qu'il est bon de téter?
Le plus longtemps possible.
C'est à la fin de sa vie?
Non, je dirais 1 an et demi, allez.
Après, on arrête l'allaitement.
De force, ouais. Il retire la tête. Tu as dépassé l'âge limite. Je pense que c'est bon jusque tant qu'il y en a. Hein.
Le sevrage naturel.
Tant mieux pour eux, ça a l'air d'être très
éphémère. 89.1 électrique. Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 16 juin 2012, nos programmes pour cet après-midi. À 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Ja Not Dead. Et à 17h, Éphémère 7, l'antenne à Booster FM sur les 89.1. Mais dans l'immédiat, voici la foire aux bébêtes que vous attendez tous.
Radio Éphémère présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Et bonjour à tous, donc nous sommes le 16 juin, donc merci à Corentin d'avoir fait la présentation, et il est meilleur que nous, hein, de nous prendre la place dans
ce ouais, c'est vrai, c'est vrai, il est pas mal. Ouais.
Je n'arrive pas à régler mon micro, par contre, c'est un peu chiant, c'est bon.
Alors, on est super nombreux aujourd'hui pour cette émission spéciale sur... Ah bah non, mais qu'est-ce qu'il fait là?
Il y a un monsieur qui vient de rentrer avec du kaki partout.
Bon, Das, qui vient d'arriver...
Je rentre à la maison, c'est cool. Au revoir.
Donc nous faisons une émission spéciale Prometheus aujourd'hui avec du monde autour des micros, notre éternel participant exceptionnel JB. Bonjour JB.
Attends.
Il a pas de micro.
C'est bon, j'ai enfin le micro. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Eddie est parmi nous aussi. C'est la première fois que vous entendez sa voix. Bonjour.
Oui. Ah, avec un micro c'est encore mieux.
Voilà, ouais, Corentin. Bien, hein. On a entendu Corentin. On a Olivier qui est de retour. Voilà, on t'a pas entendu. Et donc nous avons aussi des semi-touristes qui sont derrière nous, qui peuvent prendre la parole quand ils veulent. Et
c'est des beaux paradis aujourd'hui, hein, visiblement.
Voilà, et exceptionnellement du sport aujourd'hui est aux manettes.
Ouais, mais ça m'arrange parce que je n'ai pas grand chose à dire, alors c'est cool.
D'accord. Donc tu nous as mis un fond sonore derrière, mais ce n'est pas pour tout de suite.
Ah bah non.
Excusez-le, il débute.
Ouais, non.
Alors. Donc je pense que Xavier est venu pour contrôler si on disait pas trop de bêtises sur la partie nécrologie, puisqu'on commence par une nouvelle qui nous a tous attristés, puisque cette nuit, à l'âge de 74 ans, il nous a quittés après avoir commenté 13 Coupes du Monde quand même. Et donc c'est vrai qu'on a vu la réaction de sa moitié de tandem ce matin en pleurs, mais normalement, ouais, non, c'est pas Thierry Roland, c'est pour ton émission après du sport, on avait dit.
Bah ouais, mais enfin bon, vu que je vais pas faire grand chose en sport et tout, on peut autant s'y coller, hein.
Ouais, bah justement, tiens Xavier, tu vas pas regretter d'être venu. Donc Thierry Roland, voilà, nous a quitté suite à un AVC cette nuit, qui demeurera éternellement la voix du commentateur sportif dans un pays qui est celui qui a le moins la culture foot de l'Europe. Donc c'était quand même un choix de paradoxe. Il nous a quitté donc cette nuit, monsieur Thierry Roland, quelque chose à ajouter du sport?
Ouais, bah Thierry Roland, bah il faut surtout dire que c'est un type qui a été vraiment connu et popularisé de l'ensemble des Français, on va dire, à partir du moment où il a été guignolisé. Parce qu'avant, en fait, bien ceux qui connaissaient Thierry Roland, en fait, et le duo, on va dire, qui s'est formé quand même qu'au début des années 80, hein, il faut le signaler, hein, vu que Thierry Roland avait commencé à commenter des matchs de foot dans les années 60.
À la radio.
Et à la télé aussi. Oui. Hein. Donc, bon, les matchs de foot étaient assez rares à ce moment-là, en noir et blanc en plus, qui plus est. Mais bon, bah, c'est là qu'il avait fait ses premières armes en solo. À l'époque, il n'y avait qu'un seul commentateur. Et en fait, il est un petit peu à l'origine. Non, mais c'est pas lui qui est à l'origine universellement, hein, dans le monde entier, mais enfin, en France, du fait d'avoir un autre consultant, on va dire. À l'époque, c'était pas un consultant, mais enfin bon, c'est lui qui en France a été le premier à dire OK, je vais prendre quelqu'un qui est du métier, fraîchement retraité. En l'occurrence, c'était Jean-Michel Larquet, qui s'y connaît un petit peu en football, qui apportera une vision plus technique, un éclairage un peu plus technique sur le football pour ceux qui ne le connaissent pas. Et sachant que le commentateur, lui, gardait sa place pour dire le nom des mecs et tout, et puis faire des oh là là, et puis
oh là là, du sport, je ne vous suis plus. Voilà. Est-ce que tu dirais par hasard que le tout à fait Thierry résume bien la carrière de l'ami Thierry Roland?
Oui, mais pas que, hein, quand même, quoi. Disons, il y en a eu d'autres, quoi. Je veux dire que.
Oui, monsieur l'arbitre, vous êtes un salaud.
Il y en a eu d'autres comme ça, quoi. Mais enfin, bon.
Rien ne ressemble à un Coréen plus qu'un autre Coréen. Surtout s'ils ont tous le même maillot.
Ouais, ou, je sais pas pourquoi, pour une rencontre d'une telle importance, on a un arbitre tunisien.
De l'ancien, Troisième Reich, oui. Autrichien pour
tunisien, l'arbitre tunisien pour le match Allemagne.
Ah oui, moi je confondais avec une réplique de Giroud aussi. Parce que
c'est le match Allemagne-Argentine. En 86. Enfin, bref, bon, ok, quoi. Il a eu son lot de dérapages, ça, y a pas de problème, hein. Mais il faut quand même reconnaître au bonhomme, hein, qu'il a quand même su fédérer la majeure partie des aficionados de foot, et que ça a été un des précurseurs, quoi. Je veux dire, bon, c'était pas le seul, hein. Il y avait également Kanjioni qui faisait partie de l'équipe de TF1, qui avait également travaillé à la radio, bien entendu. Donc il nous restera comme le guignol, un des guignols les plus célèbres, à mon avis, de toute façon, quoi.
En tout cas, c'est vachement bien. Fait plaisir à voir, de voir tous ces invités qui sont venus pour Prometheus et qui sont obligés de se coltiner la micro Thierry Roland. Parce que rien qu'à voir leur t-shirt aussi, on voit que c'est leur truc, le foot, quand même.
Ouais, y a pas
on
de problème.
On va aller des clubs, je crois.
Alors voilà, c'était la nécro de Ray Bradbury. Merci.
Non.
Allez, donc Ray Bradbury, justement, s'il y a des spécialistes qui souhaitent intervenir au micro, ils sont les bienvenus. Donc Raymond Douglas Ray Bradbury, qui était né le 22 août 1920 et qui nous a quitté le 5 juin dernier, donc n'était pas que le gars qu'on voyait au générique d'un film de Truffaut dans les années 60, il me semble. Alors c'est marrant parce que du sport, en préparant l'émission tout à l'heure, je me disais, il m'arrive d'écouter France Inter. Et dans une émission, et il se trouve que dans une émission, ils ont fait un sujet sur Bradbury et ils n'avaient tous vu que le film de Truffaut. Ça tombe bien, nous avons un représentant de cette façon de penser.
Il y avait l'un des intervenants où je crois que c'était une nana qui avait lu quand même Chronique martienne, hein, qui est le bouquin le plus connu, quoi, de toute façon, quoi. Donc
voilà, donc, pas mal. Donc le bon pour le oui, vas-y, t'as le droit de réponse, vas-y.
Effectivement, j'ai vu le film, mais si je me souviens bien, il y avait une adaptation des Chroniques martiennes en BD dans Spirou dans les années 80. Voilà.
Alors ça, je ne suis pas spécialiste ni de Spirou ni de Bradbury, donc je suis pas sur ce terrain-là. Je ne saurais te confirmer.
Tout à fait, Thomas.
Voilà, donc Bradbury, donc évidemment pour le grand public, ça sera l'auteur des deux bouquins mastodontes, hein, Chronique martienne et Fahrenheit 451. S'il y en a qui n'ont pas lu les bouquins à cette table, on va essayer de le résumer. Donc Fahrenheit 451, c'est une œuvre de SF qui raconte justement un monde où ce sont les pompiers qui brûlent des livres. Ils sauvent pas les gens, ils brûlent des bouquins, parce que c'est dans un monde totalitaire et la littérature est néfaste pour l'épanouissement de l'intellect et pour l'épanouissement des gens et du bonheur en général. Donc le bouquin donc raconte justement des résistants et l'aventure des résistants qui se finit juste sur une scène qui est incroyable, sur des gens qui mémorisent par cœur des bouquins pour se les transmettre oralement. Donc ça c'est énorme.
Tout à fait.
Oui, c'est
tout à fait bien parce que les gens ne mettent pas beaucoup.
Parce qu'il y a plein de mots en plus dans un bouquin, ça qui est chiant.
Je peux rebondir sur le livre d'Eli, en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux faire là-dessus. Mémoriser.
Le film Denzel Washington, d'accord.
Ouais. Et je pense que ça vient de là, à mon avis.
D'accord. Et l'autre œuvre littéraire de Bradbury qui a été très 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 connue aussi, c'est donc Chronique martienne, qui est. Alors, je crois que je l'ai lu il y a longtemps et je crois que c'est un recueil de nouvelles sur la colonisation de Mars, d'après ce qui me semble. Et Olivier, tu confirmes? Tiens, mets ton micro devant la bouche. T'as pas de casque, c'est pas grave, tu peux.
C'est pas grave, tu nous entends.
Et on t'entend.
Voilà.
Ça tombe bien, nous sommes pas dans l'espace.
On n'entend pas crier dans l'espace.
Allez, Olivier, on t'écoute.
Je dis oui, je confirme totalement ce que tu viens de dire. Effectivement, les chroniques martiales, c'est un, faut pas l'oublier, un recueil de nouvelles. Donc, il n'y a pas une vraie histoire suivie, on va dire chapitre par chapitre. Par contre, effectivement, c'était un exercice de style extrêmement intéressant et qui, justement, petit à petit, on s'aperçoit au travers de divers personnages et de diverses situations comment on arrive à coloniser petit à petit Mars. Donc, voilà. Je vous conseille fortement de le lire si jamais vous ne l'avez pas encore lu.
C'est marrant, on va reparler colonisation tout à l'heure, non?
Ouais.
Terraformation,
tout ça. Et puis on va parler aussi de différents chapitres, en fait, et de nouvelles qui n'ont rien à voir dans un scénario de film. Donc forcément, on est raccord.
Et voilà. Les personnages qui apparaissent, tout ça.
Ouais, et j'ai retrouvé la date du film de Truffaut, la date de sortie, c'était 1966, hein, enfin 1951, avec l'un des acteurs de Jules et Jim, il me semble.
Ah ben, Jean-Pierre Léo, alors.
Non, pas Jean-Pierre, non, c'est l'Allemand.
Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren.
Pardon. Bravo.
Mais ce n'est pas allemand. Si.
Dolph
Lundgren. Si, il est allemand.
Il est allemand, ouais.
Ah, d'accord. Ouais. Bon, mais je viens d'apprendre.
C'est Schwarzy qui est autrichien.
Tu confirmes. Tu confirmes, il est allemand.
Hein?
Tu confirmes.
Ah, je vais l'appeler après.
Voilà. Alors, donc, Bradbury avait quand même une actualité, puisqu'il y a deux films adaptés de son univers qui sont en préparation, pour annoncer pour l'année prochaine. Donc, le premier, est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est adapté par Zack Snyder.
Bah, ça peut.
Voilà, qui l'en doit à Sucker Punch 300, donc
il a du Watchmen.
Et oui, voilà, bon, et Watchmen, hein, aussi.
Donc le seul bon.
T'as pas droit de dire que du mal.
Qui adaptera donc si tout va bien, The Illustrated Man, voilà. Et la même année est prévu également le nouveau film de Frank Darabont, qui est quand même un gage de qualité pour les adaptations littéraires, qui n'est autre que la nouvelle adaptation de Fahrenheit 451.
Après, il faut voir, parce que Darabont aussi, il y a des hauts et il y a des bas. Effectivement, tu as Les Évadés, mais tu as aussi The Mist, qui n'était pas sensationnel.
Est-ce qu'on a des idées de casting? Non, il n'y a pas encore.
Alors, je travaille à partir de la fiche Wikipédia, n'est-ce pas? Donc là, en guise de détails supplémentaires, il y a marqué IMDB.
Voilà. Allez voir IMDB, bien sûr.
Quand j'étais pris par le temps, je n'ai pas fait le clic supplémentaire pour aller.
Mais c'est marrant sur ce que tu viens de dire. En fait, moi, je serais tenté de faire l'inverse.
Mais je pense que c'est une question de culture. Ouais. On va voir au fur et à mesure.
Le challenge technique pour réaliser Fahrenheit 451 va être assez impressionnant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'entendront au tournant, et donc du coup il faudra suivre ça de près.
En même temps, des remakes d'adaptations littéraires faits par les Américains, en général ça vole pas très haut, hein.
Ouh là là, je ne te suivrai pas sur ce terrain. Ouais. Attention, je pense que ça mérite un droit de réponse dans l'émission.
Après, je ne dis pas que les adaptations de bouquins faits par les Américains sont mauvais, bien au contraire, il y a pas mal d'exemples qui sont très bons.
On peut parler d'Hans Zorro aussi, si vous voulez.
Non. Oui,
il paraît que c'est très mauvais. Ouais. Je l'ai pas vu.
Mais ah bon, mauvais. Alors tu es nouveau, si tu veux revenir, on a banni l'expression il paraît. Ici, on ne parle que de ce qu'on connaît, à part évidemment les fichiers MDB où on reconnaît que nous n'avons pas
pouvoir parler du Prometheus qu'il paraît il aurait dû faire.
Alors, du coup,
on a fini alors, du coup.
C'est cool.
Alors voilà, ce qu'on pouvait dire sur Bradbury, les aficionados et les méga connaisseurs de l'écrivain qui nous pardonnent, nous avons fait le strict minimum sur cet écrivain de renom et méga reconnu et qui a eu une longue carrière. J'ai vu aussi qu'il avait scénarisé le Moby Dick de John Huston, donc il a pas fait que de la SF. Bon là, ça demandait aussi pas mal de préparation et je pense aussi une émission spéciale carrément. Donc on pouvait pas faire et de l'Alien et du Bradbury. Désolé pour les amateurs de
SF. Une parenthèse sur Ray Bradbury, il n'y a pas eu une adaptation d'un de ses bouquins là, un espèce de nanar avec Ben Kingsley, il me semble. Je sais pas si vous voyez ce dont je parle.
Non.
Un truc, un voyage dans le temps.
Il paraît.
Je sais pas. Non, je l'ai vu, mais j'ai un doute.
Voyage dans le temps avec Ben Kingsley.
Ouais, avec Ben Kingsley, avec une moumoute blanche affreuse.
Oh là là.
Non, me dit quelque chose, mais je sais pas que c'était d'après Bradbury.
Il me semble que c'est du Ray Bradbury, ça.
D'accord. Mais
Et c'est fait par Peter Yams. Alors j'ai perdu le.
Bon, allez, on repart.
Alors Peter Yams, déjà, voilà. Ceux qui ont un souvenir ému de Van Damme sur un terrain de hockey sur glace.
Ça s'appelle.
Il a quand même fait Outland.
Ça s'appelle Sound of Thunder.
Il a fait aussi La Fin des Temps.
Yes.
Ça s'appelle A Sound of Thunder et ça date de 2005.
Oui, et c'est duré Bradbury, non?
Oui, puisque je suis sur la liste de Bradbury, forcément.
Bravo, bravo.
Chapeau à Mr. Eddy. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur Ray Bradbury. On va peut-être si on a des coupures musicales
Alors il faut signaler également que dans la nouvelle série c'est un petit complément à l'adresse de Thomas. Dans la nouvelle série d'Alfred Hitchcock et tout présente, mais qui était sortie dans les années 80, il faut savoir qu'il y a un épisode scénarisé par Bradbury qui a été réalisé par Tim Burton. Voilà, hein, en plus.
Non mais Tim Burton, voilà, c'est à l'adresse de Thomas, c'est pour ça que tu me parles de Tim Burton. C'est très bien la version que j'ai pour ce type depuis 95, d'accord.
Voilà, okay. Ouais, il faut signaler
95 sur mon tête. Non, mais il a raison.
Voilà, pour moi, il est mort avec Ed Wood, mais j'ai l'impression de passer pour un vieux croton parce que je dis à chaque émission maintenant.
Non mais on fait exprès quoi, en fait.
D'accord.
Alors, il faut on peut également dire que Chronique martienne donc a été réalisé par Michael Anderson, en série télé était sorti dans les années 80, pas scénarisé par Bradbury mais par Richard Matheson, donc perd pas trop au change non plus quoi.
Matheson donc je suis une légende entre autres.
Entre autres oui.
Bien, petite coupure musicale.
Ah bah, si tu veux.
Est-ce que tu as quelque chose derrière les fagots ou est-ce qu'on embraye avec le morceau numéro 1 que j'ai passé?
Non, on va mettre une petite musique originale et en plus vous avez trouvé cette musique parce que c'est une musique, c'est un thème de film très célèbre.
Ah.
Thank you.
mon bonjour spécial. C'est mon bonjour spécial à tous ceux qui ont mis le casque.
Nos amis les basses, Oulous, vous êtes avec nous. Alors okay. JB a trouvé.
Alors c'est pas la version originale, ça c'est un morceau jazzifié par Bill Evans. Donc, mais on reconnaît un petit peu la mélodie quand même. Et c'est quoi?
Et c'est un film de Robert Altman qui s'appelle MASH.
Ah ouais.
Je l'ai en DVD depuis 5 ans que je n'ai jamais vu.
Voilà, ça, bah, c'est un bijou ce film.
Voilà. Ah, oui, vraiment. Moi je l'ai pas en DVD mais je l'ai vu.
Le morceau, c'est la scène bien poignante et tout. Le morceau, le titre c'est Suicide is Painless. Le suicide est sans douleur, quoi.
Voilà, avec Lips on Fire, oui. Les guests.
Un clin d'œil, il y a un certain film de 92 dont on parlera tout à l'heure, peut-être. Ah. Le suicide est sans douleur, de la lave en fusion, surtout.
Ok. Oui, c'est rapide.
Alors, petit aparté, puisque je vois que dit comme moi, on a MASH dans notre DVD pour pas faire trop tâche au milieu des Rambo 2 et des Kill Bill.
Non,
on reçoit des gens chez nous, c'est ça?
Je te coupe, je l'ai pas en DVD. Mais je ne l'ai pas vu.
Ah, tu l'as pas vu, d'accord.
Voilà, je me range de ton côté.
D'accord. Alors, je vois que tout le monde est chaud à cette table, et même ceux qui ne sont pas devant un micro pourront participer, puisque évidemment.
Non, mais bah, ils bookinent derrière, donc l'heure. Ça ne marche pas.
Nous avons concocté, quand je dis nous, c'est moi, un petit quiz, puisqu'il n'y a que moi qui ai les réponses. Un petit quiz pour se remettre dans le bain d'une saga avec des aliens. Donc je pense que on voit le petit œil qui frise auprès de nos invités. Du sport peut aussi participer s'il est prêt. Je crois que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, ils ont intérêt à vraiment se speeder et pour appeler au 05 61 580 580. Alors on ne me tend pas un texte à lire sur un téléphone pendant que je parle. Donc je te le dirai après si tu veux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Terre de légende, bonne nouvelle, le prochain film de Sfar serait annulé. D'accord.
Très bonne nouvelle.
Ouais, c'est pas mal.
D'accord. D'ailleurs, j'espère qu'ils nous écoutent pas. Donc voilà, si vous voulez participer à ce petit quiz 0561 580 580, et quand je dis vous, je pense pas du tout à quelqu'un qui nous écoute du Gers, qui est un habitué de l'émission et qui est un grand auditeur du supplément week-end. Voilà, donc nous allons lancer le quiz. Donc,
parle de sa maman.
Non, Nicolas.
Non, nous parlons de Dan du Gers, nous parlons du...
Ah, il se souvient plus, c'est pas grave.
Voilà.
D'accord.
Prestigrune, voilà.
Pardon.
Benoît. Sport, si tu as remis la main sur le fond quiz.
Bah oui.
Alors voilà, tu peux nous le lancer si tu veux. Si tu te sens prêt. Bien, bien, bien. Est-ce que vous êtes prêts? Vous dégainez vos micros? Ok. Donc nous allons nous remémorer quelques films qui sont la saga Alien, en l'occurrence. Alors j'essaie de me mettre comme ça, pas que le sport, Lise.
C'est raté. Hein.
Ah, cette distance est tombée. Ah, cette distance, c'est bon, t'en fais pas.
Alors, la série Alien.
Non. James Cameron.
Comporte combien d'épisodes au cinéma?
4 et demi.
4.
Parce que le cinquième, on sait pas si c'est un lien ou pas.
Est-ce que celui avec les Ewoks ça marche?
4. Alors, le cinquième, les, tu penses auquel?
Est-ce que les AVP comptent ou pas?
Cela n'existe pas.
Il y a effectivement un piège.
Il n'existe pas. Il y a 2 AVP.
De toute façon, il y a que 2 films Alien. Hein. Bon.
Alors,
c'est marrant, un VP, ça me fait toujours penser à un AVC.
La réponse, 3 films étaient acceptés, mais je vois que tu es encore plus extrémiste que moi.
Moi, je dirais 2.
Pour moi, pour certaines personnes, le 4 n'existait pas. Non, c'est le 3 n'existe pas non plus.
Donc, le 3, c'est quoi, le 3?
D'accord. Donc, c'est une saga à 2 épisodes.
Exact.
Effectivement, si tu enlèves le Cameron, il n'y en a que 2.
Allez, d'accord, ok, c'est parti. Alors... Deuxième question. Alors, je note les réponses. Bon, là, il n'y a personne qui a gagné, puisqu'il y avait plusieurs réponses possibles.
Attendez, un mec qui fait du sous-marin, visiblement. Les films de vacances en sous-marin en 3D.
Ah, toi, t'es jaloux, toi.
Alors,
T'es grave.
Deuxième question, attention.
Dans une boîte de concert, j'adore. Besson ou inversement, là.
Oui, voilà. Ouais.
Alors, deuxième question. Citez-moi le nom de la planète des aliens.
LV426. LV426.
Très, très bien, bravo.
Joli.
Alors, il y a un point.
Alors, attends, on parle de la planète du Nostromo ou la planète.
Alors, si tu parles de la planète du Nostromo.
Est-ce que c'est la planète des aliens?
Oui, déjà la question est mal tournée.
Ah,
parce
la question est mal tournée.
C'est la planète des aliens.
Normalement, voilà. ils ont pas de planète.
Vu ton empressement à répondre, la réponse était évidente.
Et oui, elle est évidente. On pourrait même dire Acheron aussi, parce que ça a été rebaptisé après dans le 2.
Oui.
Quand ça a été colonisé.
Ok, alors,
attention.
Question numéro 3. Chacun votre tour. Dites-moi le nom de soldats marines coloniaux dans Aliens.
Tous
commence.
Ah non, je suis là, je connais pas.
Alors, il y a page, X.
Je sais pas, moi.
Ah, éliminé deux, déjà. Oh, allez, continue, tout seul.
Hudson.
Oh, putain.
Vasquez.
Ouais.
Ensuite,
oh,
on
Vasquez,
a qui
merde,
Alors, attends. Je réfléchis, ça va venir. Gorman.
Ouais.
Virbovski.
Ah, Virbovski.
Drake.
Attends, il faut que je lui dise le livret. Bon, Drake, c'est sûr.
Drake, Virbovski.
Ripley, c'est militaire au départ.
Ripley n'est lieutenant, mais n'est pas militaire. Mais
non,
ça
non,
peut aussi compter s'il y en a qui. Voilà.
Donc militaire.
Ouais, mais c'est, elle est conseillère.
Mais qui continue tout seul.
Apone.
Apone.
Oui, oui, Apone. Attends, alors, ceux qui étaient dans le besoin auraient pu citer Newt aussi, mais qui n'était pas un marine.
Non, Newt, c'est pas un marine.
Bishop, on a aussi Bishop, ouais.
Bishop,
on a aussi l'envoyé de la compagnie.
Il est pas militaire, mais je suis un peu chaud.
Non, c'est le.
C'est l'androïde qui accompagne tout vaisseau.
Donc ce n'est pas militaire.
Oui, c'est plus ou moins un iPhone amélioré.
Il est dans une mission militaire. C'est
un iPhone amélioré, pas mal.
Oui, c'est ça.
Il n'est pas catholique en tant que militaire.
Mais c'est pas un vrai marine.
C'est un GPS.
Voilà. Amélioré.
Gros GPS.
Allez, très bien. Bon, Eddie, on peut mettre deux points. Bon, allez, un. Question 4. Dans le film Alien la résurrection.
Ouais,
ah,
qu'est-ce que c'est que ce film?
T'es dans la mer là déjà.
Non, je le connais, t'inquiète pas.
On l'a revu il y a pas.
Je voudrais le nom d'un vaisseau spatial apparaissant dans le film.
Le Betty.
Ouais,
bravo.
Bah, c'est facile.
Sinon,
bah,
le
alors, attends, facile.
Sinon, c'était, il y avait l'Auriga aussi.
L'Auriga, voilà.
Alors, numéro 5. Quel est le terme technique pour désigner les aliens dans les films?
Xénomorphe.
Ah, oui. Égalité, mais Eddie a répondu avec un temps d'avance. Alors, 3. Je suis un prédateur non humain et j'ai affronté des aliens dans une pyramide.
Prédateur.
Bravo.
Après,
mais qu'est-ce que ça vient faire dans la saga Alien?
Sur les aliens.
Mais jamais ils ont affronté des aliens dans une pyramide. Mais n'importe
quoi. Est-ce que Kurt Russell marchait aussi?
Kurt Russell?
C'est des aliens dans une pyramide, je suis désolé.
Oh, c'est plus apparenté aux deux Égyptiens. Ah oui, c'est vrai.
Tu parles de Stargate?
Oui.
Je me rappelais plus.
Dès qu'il y a un problème, faut envoyer Kurt Russell. Tu sais bien.
Le nom des différents androïdes, y compris dans Prometheus.
Bishop, Shaw.
David.
Ouais, Bishop.
Non, Shaw n'est pas un androïde.
Il y a Cole.
David,
pardon. Il y a Cole. Alien Resurrection. Il y a Bishop 2 si on veut prendre dans Alien 3. Après,
et David.
Et dans le 1,
c'est H.
Voilà, moyen mnémotechnique, c'est ABCD.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, très bien.
Oh.
J'avais pas fait, franchement. Donc on apprend des choses.
Qu'elle dit, effectivement.
Ensuite, le nom de la mystérieuse compagnie.
Weyland.
Ou Weyland Yutani, ça dépend le.
Ah, la réponse
la
complète, Weyland Yutani, parce que dans. Voilà, c'était Weyland Yutani. Dans Prometheus, il n'est pas encore associé à Yutani, donc c'était Weyland tout court.
C'est des Weyland si tu prends le teaser, hein. Donc ça devrait compter.
C'est vrai. Mais bon, le teaser compte pas, puisque
c'est mon point.
Ouais. Allez, un demi pour JB. Ah, je t'ai déjà compté un là pour le précédent. Allez, un petit demi pour le Predator. Le nom du réalisateur de Alien vs Predator.
Paul Anderson. Paul W.S. Anderson, s'il vous plaît.
Bravo. Donc là, ça mérite même
deux. Il y en a eu deux.
Apparemment, que Paul Thomas, il y a une baffe qui part. Hein.
Ouais, c'est pas le même.
Parce que apparemment,
Anderson aussi. Hein.
Quand il fait des bons films, il s'appelle Paul Anderson.
Alors,
et quand il fait des mauvais films, il s'appelle Paul.
Ne blague pas avec ça, puisqu'il y a quelqu'un très sérieusement me l'a sorti, pensant que c'était vrai.
Ah mais moi j'en suis convaincu. Et après je vais faire une parenthèse qui va vous plaire. C'est un peu comme les films de Steven Seagal, c'est-à-dire que les bons films de Steven Seagal, il y a les cheveux longs, et les mauvais, ben il a les cheveux courts. Voilà. Donc il faut méditer là-dessus. C'est un peu le même
système. Et dans la série télé où il a les cheveux longs.
Alors c'est une série télé, ça ne compte pas.
Ah. C'est pas vraiment une série, puis c'est un documentaire.
Il est en train de tourner une série là en ce moment. Il y a une série qui sort.
C'est Trou Justice.
Ouais. Bah Trou Justice, ça fait un bout de temps là.
Ouais.
Allez, il désigne des poulies
avec un tank.
C'est un documentaire quand même.
Mais non, il est, c'est lui le patron de son équipe de flics dans Trou Justice.
Voilà.
Disons qu'il délègue.
Est-ce qu'on aura une émission où il sera vendeur de donuts? Je le trouverai très bien dedans.
Ouais, peut-être dans les Infiltrés 2.
Ouais.
Alors que depuis un bon bout de temps, notre jingle quiz a disparu. Est-ce que tu peux nous le relancer, s'il te plaît?
Ouais, bien sûr.
Alors, dixième question.
Ça se voit que Xavier est pas là.
Si l'artiste Geiger a conçu la Bay,
alors on dit Geiger.
Geiger ou Geiger?
On dit Geiger.
Toi, tu es
Geiger.
Oui, Geiger.
Geiger, donc le germanophone, d'accord. Alors, si l'artiste Geiger a conçu la Bay, quel artiste connu a conçu les combinaisons spatiales?
Ouais.
Ok.
C'est vrai.
Ça vaut 3 points.
Oh, je te rappelle que nous avons fait une spéciale Moebius il y a pas longtemps, donc
je n'étais pas là, j'ai pas pu être là.
Ouais. C'est vrai, t'aurais pu l'écouter. Alors, comme je vois que vous avez été très fort sur ce quiz à 10 questions, j'ai préparé 2 questions en mode hard.
Oh là là, ah, qu'est-ce que c'est un mode hard? Ça me plaît.
Le nom du vaisseau contenant les œufs aliens dans le premier film?
Derelict.
Aïe 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 aïe.
D'accord, ok, donc ça je mets le point à part.
Ouais.
Et on retrouve des personnages appelés Ash et Bishop dans un film sur les univers virtuels sorti dans les années 2000.
C'est pas
qui
existence.
Ne sont pas. Comment?
Existence?
Non, qui ne sont pas liés à la mythologie alien, mais qui sont une référence.
Qu'est-ce que vient faire Cronenberg là?
C'est le gars de David Dead, mais ça n'a pas le rapport dans les années 2000.
Dans ce même film, il y a Ash et Bishop. Et je pense qu'un gars déguisé en tri à côté pourrait répondre.
Y a pas... On parle d'un film ou
Men in Black?
Un film. Non.
Il y a X-Men ou il y a Bishop qui joue dedans?
Il y a deux personnages, Ash et Bishop, dedans. C'est une œuvre de SF.
Non, mais c'est les noms des personnages ou
oui.
les acteurs?
Sur ouais. les univers virtuels.
Noms de, c'est les noms des personnages. Et arrête de souffler, toi.
Il dit un truc genre mardi.
Matrix, non?
Matrix?
Non.
Des univers virtuels.
Non.
Sur les univers
c'est, virtuels. Alors, c'est un film en live, tourné en Pologne, réalisé par un japonais.
Oh ah, non, Avalon. Non, mais attends, mais c'est interdit.
Avalon.
Ça.
Voilà. Ah, enfin, putain, quand vous voulez.
Bah, je l'ai pas vu.
Alors, on récapitule les réponses. Donc, évidemment, Eddy largement en tête avec 5 plus 1, puisque le plus 1, voilà. JP se défend pas mal avec 3,5, Corentin 1, et les autres. Vrai, vous avez. Oh. Vous
comme
avez
au bac.
Comme
au bac. Comme au bac. Et Corentin 1. Bonne participation.
Bien.
Bonne idée de venue, voilà.
Alors, on va. Est-ce qu'on souffle un peu avant de.
Je trouve que ce jingle
la partie
bien, Corentin.
Alien.
Est-ce qu'on peut faire un round 2 et on fait un interlude?
Allez, on fait une petite interlude. Du sport va nous caler un petit CD là. Un autre, une autre reprise jazzifiée dans un thème cinéma ou pas?
Non, j'essaie de passer ton truc là, mais visiblement.
Ne veux pas. Toi, tu as encore gravé des trucs avec des morceaux volés.
Non, c'est pas.
Ah, c'est sur les internets. Ah là là. Ah bon,
alors, ouais, tant pis. Ouais.
Et bah voilà.
On en parlait juste avant.
Predator? Non. Non. Steven Seagal.
Steven Seagal, voilà. Ah. C'est lui là. For days, I have a little red rooster to lay that I crow for days. Keep everything in my mind upset in every way. The boy came.
Alors, il avait les cheveux attachés ou pas dans la chanson?
Attends. Non, pas attaché.
D'accord.
Ça marche pas.
Pas attaché.
Allez, on a lancé le thème musical d'Alien qui se trouve sur la BO de Prometheus d'ailleurs.
Comme par hasard.
Comme par c'est bizarre.
Alors, voilà, maintenant on aborde le concret, le lourd. Avec donc la saga Alien. On va se cantonner au discours officiel qui a 4 films qui existent. Je suis désolé pour les trolleurs, les réfractaires en tout genre. Il y a 4 films qui existent qui s'appellent Alien.
Moi j'en suis complètement d'accord.
On laisse de côté les versus Predator, hein, puisque c'est, on
va pas, ça n'existe pas.
On va pas déconner non plus. Donc 4 films pour une saga quand même exemplaire et quand même qui sort de l'ordinaire, puisque bon. Après on va entrer dans les détails, mais c'est quand même 4 réalisateurs, on va dire mastodontes, certains plus que d'autres.
Physiquement, oui.
Physiquement.
Certains plus que d'autres, effectivement.
Fincher à l'époque c'était un coton-tige quand même, hein, quand il a fait le tournage.
Ouais, 29 ans, t'imagines, 29 ans sur largué sur un Alien sans scénario. Putain.
Ouais.
Chapeau bas.
Et qui quand même qui s'attelle à un film dont la planète devait être une planète en bois.
Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est kiffant. Enfin, moi j'étais tombé sur le bonus du Blu-ray où t'as Vincent Ward en fait qui parle de son film.
Je l'ai vu cette semaine aussi.
Et c'est vrai que j'avais envie de le voir ce film avec cette planète en bois. Franchement, j'ai envie de payer pour le
Alors,
voir.
Alors, avis à ceux qui n'ont pas vu les bonus, c'est vrai. Ce qu'on dit, c'est pas une blague. Hein.
C'est pas une blague. Hein.
Voilà. Donc 4 réalisateurs. Donc imaginez une série et on vous dit que les 4 épisodes sont réalisés par Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. Tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà. Il se trouve que ça a été
surtout
fait.
Jean-Pierre Jeunet, chercher l'erreur. Il manquait Marc Caro, moi j'en suis persuadé.
Voilà.
Ouais, oui,
saga Alien, donc 4 visions différentes, 4 univers forts, puisqu'à l'origine c'était un film, le film sorti en 79, et quand même ce qu'on peut appeler quand même juste un film de monstres. Oui.
Dans tous les sens du terme.
Oui. Film monstrueux, voilà. Alors, déjà, on a déjà commencé à demander, à faire un tour de table. Votre film préféré.
Qui sonne, Eddie.
Votre film préféré de la série. Donc, Eddie, justement, il a dit tout à l'heure, voilà, c'était le Aliens. Corentin.
Je sais pas.
D'accord.
J'avouerai que je sais pas. Faudrait que je revoie le 3. Parce que.
T'hésites entre le 1 et le 3.
J'avais un très bon souvenir du 3 à l'époque. Je dirais certainement pas le 2, contrairement à Eddie à côté de moi qui va
je n'ai rien dit encore, hein, j'étais en train d'éteindre mon
portable. Mais tu y pensais tellement fort. Non, effectivement, je pense que c'est le premier qui me plaît le plus. Après, j'ai une tendresse particulière pour le quatrième quand même de Jeunet. Parce que je l'avais vu à l'époque au cinéma et c'était un grand moment.
Mais en fait, tu participes au troll anti-Jeunet depuis tout à l'heure, mais en fait, tu avoues maintenant que c'est un de tes préférés.
Bien sûr.
Mais tu vannes sur le film.
Il est bipolaire.
T'es bipolaire, d'accord. Ouais,
c'est ça.
JB.
Moi, j'aime bien le 3. Et est-ce qu'on. Si on met le Prometheus dedans, moi, je mets ya aussi.
Ouh là 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 là.
Il y a de la note d'intention là. Ça annonce du lourd.
Je sais, mais pourquoi pas. De toute façon, Thomas m'a invité pour revenir au fight. C'est parti, quoi. Un grand plaisir.
Olivier.
Non, très bien.
Moi, j'hésite entre le 2 et le 3, en fait. Mais je pense que je préfère le 2.
Tu as bien raison. C'est ça, regardez.
Tu sors.
Non, c'est rigolo parce que les gens qui existent, généralement, il y a toujours le 1 dedans, dans la balance.
Oui, mais assez bizarrement, moi, j'ai pas franchement apprécié le 1. Faut dire que je l'ai vu bien après avoir vu les autres, en fait. Et du coup, j'ai eu l'impression, en tout cas, que ça avait assez mal vieilli, en fait. Donc, du coup, peut-être que ça m'a pas autant marqué ou que je l'ai découvert trop tard.
Dans l'assistance.
Non, bah ça tweet,
numéros,
ça,
le
ça
1
boit des
pour
coups.
Xavier.
Ouais, ça boit, ouais, c'est clair.
Chantal dit oh, j'ai pas d'avis. Elisa,
Le 2.
Tu as vu les 4? D'accord.
Elle est bien, Elisa, elle est bien. Elle est bien.
Elle a bien aimé le 4.
D'accord, mais attends, viens au micro si tu veux parler.
Oui, parce que là, oui. Non, mais il y a des menaces de.
En fait, il y a des menaces avec Eddie si on dit que le 4 est bien.
Non, il n'y a pas de menace, je suis pas comme ça.
Un peu, donc du coup, j'étais avec le 4 et le 2, mais le 2 puisque la reine. La reine, voilà.
C'est... Même ça, c'est parce que tu es une femme, c'est pour ça.
Ouais,
c'est... mais c'est général. Non, mais généralement, c'est
alors
ce qu'on
que le 4
trouve,
est lesbien quand même, c'est quand même bien plus sympa.
Ouais.
Hein? On est d'accord?
Oui. Lesbien, hein? Le 4?
Oui, si, si, en fait, on est revenu à cette conclusion-là la dernière fois qu'on l'a regardé.
Thomas l'a pas vu.
Non, mais l'alien humain à la fin, il est
Thomas n'a pas regardé le
4. Oui, non, on parle pas de l'alien, on parle de Ripley et de son petit cyborg.
Ah, de Cole, d'accord.
Ouais, de Cole.
Non, l'alien du 4, il finit en confiture, donc.
Oui.
En confiture numérique.
Nous n'avons pas à demander l'avis au réalisateur.
Non, il s'en fout, il est parti.
Non. Bah moi c'est le 1, hein, mais tout simplement parce que vu mon grand âge et tout, j'ai eu la chance de pouvoir le voir quand il est sorti au cinéma. Ouais.
Et je pense que c'est le seul à cette table qui peut s'enorgueillir de ça quand même.
En fait, si tu replaces les choses dans leur contexte d'époque, à l'époque c'était quand même une grosse claque ce film, comme a été Blade Runner à l'époque. Si on regarde les choses, bon, avec 20 ans ou 30 ans d'écart, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'eau est passée sous les ponts. Beaucoup de films ont été tournés à la suite de ces pas films fondateurs, mais qui débloquaient un petit peu les choses. Hein. C'est quand même des films qui ont un petit peu débloqué les choses au niveau de la réalisation de cinéma et surtout du rapport de Hollywood par rapport à ce genre de film ou du rapport de Hollywood par rapport aux films de genre. Quoi. Et justement, c'était quand même une grosse claque à l'époque.
Oui, puisqu'on ce qu'on peut dire dessus, c'est que
très bonne musique.
Il faut paraphraser justement ce que dit d'ailleurs le cyborg H dedans, puisqu'il dit j'admire sa pureté. C'est un commentaire qu'on pourrait très bien appliquer au film en lui-même, puisque le film sort donc sorti en 79. C'était pas le premier film de Ridley Scott, puisque beaucoup de gens ont
Il avait fait Duelliste avant, quoi. C'est pour ça que moi j'étais allé le voir parce que j'avais vu Duelliste et puis j'avais pris une grosse
très bon film. Ouais, c'est vrai.
Voilà. Le cast du il faut placer dans le contexte puisque Dune avait failli se faire sous l'égide de Jodorowsky, mais justement le petit malin. Oui.
Et je crois qu'il avait fait également le film avec les vampires, là, avec Deneuve et Bowie.
C'était après les Prédateurs. Ça, c'est Tony Scott.
Oui, d'accord. Okay.
Oui, c'est Tony Scott.
Mais il y a travaillé dessus. Hein, les deux ont travaillé dessus. Hein, il avait une place. On sent quand même l'esthétique du grand frère. Quand même,
ouais, de toute façon, ils ont pas mal collaboré tout au long de leur carrière. Hein, même si ils sont pas crédités systématiquement les deux ensemble et tout.
Alors c'est marrant quand tu parles de vampires parce que j'ai cru que tu allais dire que c'était une référence à La Planète des Vampires de Mario Bava.
Ah non, pas du tout, non.
Quand tu vois Master of Horror, mais les
Master of the Universe, c'est ça.
Non, il y a eu une série documentaire sur trois grands noms du cinéma d'épouvante qui étaient Argento, Bava et Carpenter. On voit dans les commentaires, il y a Tarantino qui dit et c'est vrai quand tu vois des images que La Planète des Vampires de Mario Bava, il y a une filiation entre Alien et au niveau des couloirs, de l'atmosphère, etc.
Oui, on sent même les scaphandres, etc.
Les tuyaux qui dépassent partout. Hein. Si, quand même, c'est une constante. C'est peut-être la seule constante dans toute la saga Alien, c'est qu'il y a des moments, t'as des tuyaux qui dépassent
des couloirs. Ah, et des aliens aussi.
Et des aliens.
C'est très important. C'est assez phallique. Hein.
Alors donc le casting réuni pour une partie du casting réuni pour le Dune de Jodorowsky donc se retrouve sur ce petit film qui est donc Alien. Dan O'Bannon au scénario, un casting malgré l'inconnu qui est Sigourney Weaver à l'époque, on a quand même du lourd, hein, mis en exergue quand on part du premier Alien, puisqu'il y a John Hurt, Harry Dean Stanton, Tom Skerritt, un drôle de shérif, c'est ça, Ian Holm qui interprète Android. Donc ça va, on peut faire pire. Donc Iger, on l'a dit tout à l'heure, au design de la bête, qui est toujours vivant, il me semble. Non, il est pas mort le type.
Iger, il est toujours là.
Il est toujours là.
Il est toujours là. Ouais.
Moebius, Jean Giraud, croquis des costumes spatiaux, puisqu'il avait été approché, mais finalement il avait dû se désister parce qu'il croulait de projets à l'époque. Il avait pu justement participer à l'élaboration des costumes. Il avait auparavant collaboré avec Dan O'Bannon sur une histoire qu'il avait illustrée qui s'appelait The Long Tomorrow, qui était une bande dessinée scénarisée par O'Bannon. O'Bannon lui-même sortait de Dark Star de Carpenter, donc on voit un peu l'affiliation. Il n'était pas à son premier film de Space Opera. Donc le synopsis, si quelqu'un veut prendre ce plaisir-là.
Je pense que c'est important aussi que tu précises les producteurs, parce qu'ils ont un rôle dans cette saga. Walter Hill, David Giller. Hein. Si comme moi, t'as regardé un petit peu les derniers docus, tu vois quand même que les mecs, ils font pas que produire. Hein.
Walter Hill,
enfin, mis de côté le côté metteur en scène, hein, tu vois, de sa carrière à lui. Moi, ce que ce documentaire m'a appris aussi, c'est que les mecs, ils n'hésitaient pas à aller taper dans les scripts de Dan O'Bannon, des autres, etc., à dire, à passer derrière la caméra, etc. Quoi. Donc, oui. C'est quand même, on va dire, une problématique, hein, sur certains films.
Alors, bon, le synopsis, qui est chaud pour quelqu'un qui sortirait de sa grotte aujourd'hui, un jeune. On aime, parce qu'on aime bien les jeunes aussi, parler aux jeunes sur notre émission, sur notre radio. Si quelqu'un veut raconter l'histoire du premier Alien,
ben, je propose que ce soit le plus jeune d'entre nous qui attaque. Hein.
Oh. D'accord. Quentin ?
Oh merde. Non, parce que je m'en souviens pas bien. Forcément, je vais pas avoir tous les détails, je vais pas avoir la chronologie exacte.
Mais sérieusement,
ils arrivent sur une planète, il y a un vaisseau, il y en a un qui se prend un facehugger dans la gueule et après.
Alors, bon, déjà, après, les gens qui connaissent pas, ils n'ont rien compris
Mais
le vaisseau de transport de marchandises Nostromo,
voilà,
est réveillé d'un hyper-sommeil.
Oui, bon, il s'éclate sur une
planète. Par un robot qui leur dit attention.
Non, c'est un signal de détresse.
C'est un signal de détresse qu'ils apprendront après que c'était un signal d'avertissement qu'il fallait pas y aller.
Je ne comprends rien.
Quoi?
Je ne comprends rien.
Donc le vaisseau Nostromo est envoyé par une mystérieuse compagnie. On découvre par la suite dans le film que ils ont dû le robot leur a dit vous allez récupérer une créature puisque voilà c'était le fin mot finalement de la mission, le fin mot caché pour aller récupérer une créature et ce que l'équipage prend au début pour un message de détresse est un message d'avertissement et par inadvertance l'un des membres du vaisseau se prend une éclosion d'œuf dans la tête qui lui pond un embryon dans l'estomac et donc l'alien explose l'estomac pour sortir et va muer pour progressivement devenir l'alien que tout le monde connaît qui est on peut pas dire anthropomorphe si quand même
un gros scarabée.
Voilà, un scarabée géant avec deux bras, deux pieds qui dont le sang est
un
acide
plutôt,
et qui va
oui un criquet plutôt.
Un criquet, oui.
Ouais. Avec une tête
une
de dauphin.
Voilà,
avec une
bouche ou, double bouche, voilà.
Ou un insecte comme diraient les Marines du 2.
Voilà.
Et donc
il y a un androïde dedans qui est donc à la solde de la mystérieuse compagnie et donc les androïdes vont on va retrouver un androïde dans chaque vaisseau et dans chaque équipage de chaque suite du premier Alien. Alien, pourquoi il a marqué le design du monstre, côté visqueux qui n'avait jamais été vu,
le production design du film, hein,
voilà,
total, hein, complète,
côté,
hein.
Voilà, un côté ultimate dans la création du visuel,
le côté viscéral dans l'ambiance.
Ouais.
On
n'est pas sur du film gore brutal frontal quoi. On est plus dans un truc.
Puis on est dans la dark SF aussi. Et ça c'est quelque chose qui on sort. Enfin, faut remettre dans le contexte. Hein. T'as Star Wars et puis t'as Alien quoi. Enfin, t'as
ils sont sortis il y a 2 ans d'intervalle quand même.
T'as un grand écart phénoménal quoi.
Une gestion de la lumière qui était sans pareil puisque bon Scott à l'époque il était ancien clipper, il avait aussi c'est 5 ans après il met en scène la 184 la pub Macintosh, voilà, c'est quand même le gars qui maîtrisait sa lumière, qui maîtrisait son cadre aussi, donc bon le gars bon on peut dire aussi
un professionnel quoi.
Voilà,
on raconte des choses avec l'image quoi.
Voilà. Faut savoir aussi que Ridley Scott était lui-même aussi storyboarder mais un excellent storyboarder aussi, qui était dessinateur lui-même. Voilà. On ne va pas trop avoir le temps de parler de Prometheus, donc on va enchaîner avec les autres films Aliens. Aliens de James Cameron, donc le film, donc le premier était 79, le deuxième est de 86.
Ouais.
Donc 7 ans plus tard, la suite est mise en route. Alors là, on est dans notre univers. On est dans le film de Marines, le film d'action, le film d'actionneur.
On est dans la suite.
Steven Seagal, plus ou moins.
Ouais,
Chuck Norris. Ou
oui. Ouais, c'est vrai.
Finalement, la seule réponse, c'est de tirer dessus.
Voilà, le film de Commando. Ouais. Avec...
Très bête et bas de front, genre Commando, comme tu dis.
Voilà.
Avec,
on prend l'alien.
Ça enchaîne, tu prends dès le début du film, tu commences à prendre ton compteur, tu fais 1, 2, 3, 4, à chaque fois que t'as un mort, et tu les gagnes.
Donc on prend le Alien du 1, on en met plein.
En fait c'est une sorte de jeu de rôle à l'ancienne, porte monstre au trésor un jour,
voilà, et un boss à la alien. Fin avec la reine.
Moi je dirais honnêtement, si je replace le 2 en voyant les autres, je pense qu'il a réussi à faire la suite parfaite, dans le sens où le 3 et le 4 sont juste des remakes, on reprend la même base scénaristique avec le même déroulement, etc. Sauf qu'avec le 2 on développe la mythologie, ça je trouve quand même que c'est assez sympa, parce que du coup avec le 1 on a des zones d'ombre. Alors ouais. Après il y a deux camps, hein. Il y a, on peut peut-être laisser les zones d'ombre, il aurait pas dû créer l'arène alien, mais si on reste sur ce qu'il apporte à la saga, après voilà, James Cameron, lui, il a, enfin, on va dire, il a un caractère qui est le sien, c'est-à-dire qu'il fait Terminator, etc. Donc, Kaifa Alien 2, faut pas s'attendre à ce qu'il fasse.
Caractère de metteur en scène et caractère de gestionnaire d'hommes aussi, puisque il a pas hésité à virer les assistants qui correspondaient pas à sa vision.
Oui,
voilà.
C'est un mec à poigne, hein, quoi.
Et puis, quand tu parles de Reine Alien, est-ce qu'il fallait la mettre ou pas? Il faut quand même savoir que dans la version longue qui est sortie ensuite, le côté maternelle de Ripley. Super développée, puisqu'on apprend qu'elle a laissé une petite fille de 11 ans sur Terre et qu'elle l'a jamais plus revue après, et puis elle voit qu'elle est décédée, c'est une vieille dame, alors que Ripley revient sur Terre ensuite suite à l'hypersommeil. Ça amène beaucoup de choses, ça développe aussi pourquoi elle s'attache autant au personnage de Newt, qui est une petite fille qui est survivante de la colonie qui a été exterminée par les aliens, dont les parents ont été fécondés. Le rapport entre la mauvaise mère et la bonne mère, ça c'est en plus, bon, évidemment ça fait un écho au super ordinateur du Nostromo qui s'appelait Mother. Donc voilà, c'est James Cameron, il a pas fait non plus n'importe quoi. Il y a
le thème de la colonisation aussi. C'est-à-dire que dans le 1, c'est un virus. Hein. T'as le virus qui infecte l'équipage. Là, du coup, t'as la réponse à ce virus. Et je pense que c'est intéressant. Après, on peut reprocher le côté un peu bourrin du truc. Après, t'as le côté entertainment. Oui. Ça, on est d'accord.
D'ailleurs, quand on préparait l'émission, tu disais justement qu'il y avait un côté super jouissif où, dans le 1, l'équipage se réveille d'un hypersommeil et puis ils sont dans le pâté. Et là, on voit des Marines qui se réveillent. Premier truc que fait Apone, qui est l'officier, il prend un cigare, quoi. Vasquez, premier truc qu'elle fait, elle fait des pompes.
Alors, du coup, ce qui est rigolo, on peut faire un parallèle sur Prometheus.
Oui, voilà, j'allais venir avec Vickers, qui est complètement mal amené, quoi.
C'est assez drôle, hein, de courir après la filmo de Cameron, mais bon. Voilà, c'était ma petite parenthèse là-dessus.
D'accord, ok. Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Aliens de Cameron. Il faut dire aussi qu'il y a eu des bisbilles avec l'équipe de reproduction, avec les techniciens anglais. C'était tourné à Pinewood aussi, je crois, comme le premier, mais comme que le réalisateur était canadien, il fallait qu'il y ait les franco, on respecte pas les heures et tout, alors que les anglais sont plus, voilà, l'heure du thé. On aimait bien Ridley Scott parce que c'était approprié, c'était notre père, voilà, l'enfant du pays. Cameron, il arrive avec son côté canadien, son côté routier, fuck off tout le monde, voilà. Bon, il y avait ça aussi. L'épisode 3, Olivier, on t'entend pas trop, mais je pense que tu es d'accord avec tout ça.
Tout à fait.
L'épisode 3, donc c'est le bon. Production, pré-production, cauchemardesque, voilà, c'est Lost in La Mancha dans l'espace, hein, même si le film a été tourné. Donc Alien 3 de David Fincher, il est sorti en 92. Alors c'est Alien Cube, hein, puisque le Cube 3, c'est l'exposant. Donc c'est le film a la particularité d'avoir été mis en chantier et plus que ça, et tourné alors que le scénario n'était pas fini quand même. Le réalisateur pressenti au départ, c'était Vincent Ward, c'était pas David Fincher. David Fincher a été remplacé.
Tu oublies Renny Harlin quand même.
C'est
quand même le pompon, quoi.
Le suiveur ultime, Renny Harlin, qui a fait sa vie qu'à faire des remakes et des suites pompées sur d'autres gens.
Bonjour, on voudrait faire un Alien, qui c'est qu'on appelle Renny Harlin.
En même temps, Harlin est un bon faiseur de films. Il prend des choses qui ont déjà été faites, très bien, mais il les fait bien. Tu prends, et à part le Cliffhanger, c'est pas une suite, hein, mais c'est lui quand même qui l'a fait.
Oui, c'est quand il est
mais effectivement, le Die Hard 2, dans sa filmo, elle est correcte. Quand tu vois, il n'y a pas trop d'écart-type, tu prends pas trop de risques avec Renny Harlin. Tu sais que tu feras quelque chose de correct.
Je sais pas, parce que regarde l'Exorciste, le commencement, quoi.
Alors attends,
cas de figure.
Alors on va reparler de Peter Yan, si tu veux.
Mais t'as raison, mais je suis d'accord avec toi. Renny Harlin, moi je l'adore, hein. Pour moi c'est Freddy 4, hein, tu vois, je vais aller même plus loin, hein, tu vois.
Oula.
Donc Renny Harlin, moi je le kiffe, mais c'est que quand tu regardes ce qu'il disait, c'est vrai que Renny Harlin sur un Alien, comme on l'a dit tout à l'heure, tu passes après Ridley Scott, tu passes après Cameron, c'est des films de visionnaires quelque part, hein, au niveau esthétique.
Et Harlin est bien passé après Tiernan dans son Die Hard, et il arrive à s'en tirer très bien.
C'est péchu, il y a une sale ambiance,
il arrive à apporter quelque chose de supplémentaire par rapport au premier Die Hard, et on va couper.
On va marquer une petite pause pour reprendre notre souffle. On va passer le Bishop Countdown, puisqu'on l'avait passé tout à l'heure en fond, on l'avait pas trop entendu. C'est une des musiques qui met bien le rythme et l'attention à la fin du Aliens de Cameron. Alors, on était au Alien 3, Alien Cube. Donc, David Fincher, premier long métrage qui s'attelle à la réalisation d'un film. Il n'a réalisé pour l'instant que des clips. C'est, oui. Qui n'est pas le David Fincher qu'on connaît aujourd'hui, avec le bagou qu'on lui connaît, qui peut dire fuck à n'importe qui. Là, à l'époque, c'était juste un gars en employé en remplacement de Vincent Ward et de Rennie Harlin. Il arrive, il découvre son casting. Au départ, donc il arrive, c'est une planète, donc Ripley se réveille, les survivants du 2 sont morts, elle
alors
est fécondée
ça,
dans son sommeil.
Ça, c'est n'importe quoi. Tu es Michael Bain, quoi.
Ben oui.
Quelle idée.
Alors, une anecdote par rapport à Michael Bain. Une anecdote par rapport à Michael Bain que tu vois dans les bonus du DVD.
Michael Bain, je t'aime.
Michael Biehn et James Cameron avaient la haine qu'ils aient buté son personnage comme ça, qu'il ait été buté par un alien dans son sommeil. La Fox voulait utiliser un plan de Michael Biehn qui ferait de la figuration pour montrer un plan où il s'est fait arracher l'estomac. Il n'a pas voulu parce qu'il a dit que c'était un non-respect total pour l'esprit de la fin du 2. Puisque il fondait une famille avec Newt et Ripley, une famille fictive. Mmh. Bon, voilà. Mmh. Alors, la Fox a joué le bras de fer avec lui. Lui, il a dit non, c'est hors de question, vous m'utilisez pas. Donc, la Fox a dû payer à Michael Biehn pour utiliser une photo de lui pour dire dans un rapport informatique, et oui, il est mort avec sa photo. Il a été payé autant pour donner sa photo que pour tout le tournage du 2.
Très très bien.
Et la phrase de fin de son intervention dans le 3, il dit: si j'avais su, comme j'ai défendu mon bout de gras comme un enculé, si j'avais su que David Fincher serait devenu le David Fincher d'aujourd'hui, je lui aurais dit prends-moi gratos, mais tu me prends pour ton prochain film. Et oui, c'est son regret éternel. Ouais. il s'est brouillé avec Fincher, il savait pas qu'il aurait la carrière aujourd'hui.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Donc la petite anecdote, Michael Biehn. Donc il tue Michael Biehn, et donc Ripley se réveille après avoir. On lui révèle que donc elle a été fécondée dans son sommeil par un alien. Et donc ça m'amène à proposer donc la thématique suivante pour le 3, c'est le thème du viol. Puisque tous les prisonniers sont des violeurs en puissance.
On va y revenir.
Effectivement, ils arrivent sur. Elle se retrouve dans une.
La planète. Comment s'appelle la planète?
Fiorina 121 ou un truc comme ça.
Ouais, 21 ou 161.
161, je sais plus.
Ça fait un nom très féminin en tout cas.
Ouais. Ouais, ouais.
Oui. C'est pas marqué. Fiorina.
Ouais, ce livret est pas mon.
161, oui.
161. Ouais. Non, c'est toi qui as dit 161. Moi, j'ai dit 121.
Ah, ouais.
Bon, bref.
Bref.
Donc c'est le quand même l'épisode le plus nihiliste, le plus pessimiste, le plus dark au niveau de l'atmosphère, puisque c'est y a pas un personnage où on peut s'identifier Ripley et Violet. Le seul mec avec qui elle couche dans la série se fait désinguer parmi les premiers de l'alien quand même.
Exact.
C'est quand même le Fincher et dit vous. Ah ben non, pas lui, non.
Donc, anti-commercial au possible. Voilà. Ça, on peut le respecter.
Tout à fait. Mais en même temps, c'est le premier où t'as une ambiance.
Qu'est-ce que c'est?
Non, je parle le premier avait son ambiance très bien, mais au moins là c'était clairement affiché en vous foutre une sale ambiance où c'est le monstre, c'est juste deux aliens, alors qu'on en a vu plein une ribambelle dans le précédent. Là ils se font tous désinguer pour deux seules bestioles.
Oui, la deuxième bestiole, c'est celle qui apparaît dans le ventre de Ripley à la fin.
En même temps, ils ont pas d'armes, alors bon.
Oui, alors c'est ça qui est marrant, c'est que dans le 2, ils avaient un surplus d'armes qu'ils pouvaient pas utiliser parce qu'il y avait la chaufferie à côté.
Ouais.
Et dans le 3, il dit non, il n'y a plus d'armes. On prend le contrôle,
c'est
le concept.
Il y a quand même des grosses ficelles qui sont visibles d'entrée de jeu, quoi. Bonjour, on arrive avec un alien sur une planète où il y a des moines qui sont d'anciens violeurs et ils n'ont pas d'armes. Ils poussent des trucs avec charrettes. Bon, on le sait très bien qu'ils vont galérer pendant
10 minutes. Alors, il y a quand même des plans.
C'est le but, et en même temps, c'est peut-être plus intéressant pour faire en faisant le 3 de rendre l'alien vraiment méchant et vraiment flippant, parce que du coup c'est vrai que ils en dégagent au kilomètre.
Le 3 quand même, c'est la première apparition de l'alien numérique.
Il est beau, hein, d'ailleurs. Hein.
Donc là, je suis désolé, mais ça concourt pas beaucoup à forger la mythologie.
Après, esthétiquement, il défonce, hein, quand même. Là, il y a rien à dire. Moi, je trouve que chaque plan
numérique,
graphiquement,
il y a une palette graphique.
Il y a une palette graphique, ouais. Là, vraiment,
bien mené.
Oui, il y a de l'étalonnage.
Désolé,
mais
tu parles du film, pas du monstre.
Non, moi, je parle
du film, de son ambiance. Il y a un Pantone.
La musique,
c'est clair.
Dans les dorés, ça, c'est sûr.
La musique est extraordinaire aussi. Elliot Goldenthal, il a fait un boulot phénoménal.
Bien glauque à souhait. Ses premiers plans avec Charles Dance qui sort à l'extérieur, c'est les rares plans d'extérieur qu'on verra dans le film, puisque tout est en intérieur, où on dirait un clip époque, excusez-moi, Russell Mulcahy, où c'est complètement fictif, au ralenti, avec la grosse toge marron de moine. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? On est dans un alien,
On sent même Seven, hein. On sent Seven avant qu'il le fasse. Grave, on le sent grave.
Donc casting un peu moins mastodonte que les précédents, même si on peut dire qu'il y a quand même Charles Dance, Charles S. Dutton et Pete Postlethwaite quand même. Mais c'est vrai que c'est pas un casting qui a fait date, qui a dont les acteurs ont une carrière significative par la suite.
Non mais en même temps, tu regardes le truc, ils sont tous chauves quoi. Non mais c'est
avec
sérieux.
Des codes barres.
Non mais ça sérieux, il y en a pas le, je veux dire, il y a un problème de production aussi sur le film parce qu'il y a un personnage, le personnage de Golic qui disparaît. Apparemment, il avait un rôle extraordinaire là-dedans. Je pense qu'il y a, vraiment un souci quoi. Il y a vraiment un souci parce que tous les acteurs qu'il a, ils sont bons quoi. Ils sont bons, sauf que là ils sont, voilà, ils sont chauves, ils sont mis dans l'écart. On sait pas. Des fois, tu sais même pas qui c'est quoi. Tu sais, tu confonds.
Et ah ça je te retourne le reproche pour Prometheus après. Hein.
Oui, Prometheus.
C'est encore autre chose.
Alors, faut savoir que le Alien 3 donc a été renié par Fincher. Puisqu'il apparaît nulle part dans les bonus, dans sa filmo sur le DVD de Panic Room, le film Alien 3 n'apparaît même pas.
Ah bon,
ouais, non, il a pas filmé, il a pas réalisé le film puisqu'il a été charcuté par les producteurs ensuite. Ouais. Cameron lui en a voulu parce que lui cristallisait le truc, mais il a voulu pour le sort qui a été réservé à ses personnages du 2, etc.
Ouais,
donc,
il a raison.
Film extrêmement cauchemardesque. Et puis bon,
il a en enfer.
Et puis la fin de cet épisode 3 avec donc Ripley qui se suicide dans la lave pour pas donner naissance à l'alien. Dans la version courte, super plan ou numérique.
Non mais si, mais c'est
déjà vu dans Terminator 2, mais plan magnifique. Qu'est-ce que vient faire Cameron là-dedans?
La version courte, on voit l'alien qui sort du ventre. La version longue, on le voit plus. Donc c'est beaucoup mieux. La version longue, on va voilà.
Ouais,
ils ont évité cette petite faute de goût dans la longue.
Avec ou sans pénis. C'est un choix. Non, personne me suit là-dedans.
Non, on te laisse tout seul.
Non, bon. T'es le seul à y mettre deux.
Alors, le dernier film avant de passer à l'autre, le film d'actualité quand même. Donc, 97, Alien la Résurrection. C'est le Frenchie Jean-Pierre Jeunet qui s'attelle à la suite. Avec quelques contributions de Marc Caro pour les chaussettes rayées de Winona Ryder.
Très important. Essentiel au film.
Donc, le casting Dominique Pinon, Ron Perlman, Winona Ryder, Michael Wincott, Brad Dourif. Scénario de Joss Whedon. Bon, Joss Whedon a dit après. Vous pouviez arrêter de me rappeler que j'ai fait le scénario.
Il y a pas quand même à voir. Enfin, il y a pas à voir, franchement. Je sais pas pourquoi
Final, donc tu parles qu'un Alien 3 a été bâclé, mais.
J'ai pas dit qu'il était bâclé.
Le scénario était pas fini quand ils ont commencé à tourner, etc. Donc, t'as Fincher qui arrive à sauver la peau du film, mine de rien. Et Jeunet, c'est à peu près pareil. Il commence un film qui est pas fini, qui est pas bouclé, qui est bon allez, j'ai signé, je suis obligé d'attaquer.
Est-ce que
t'es
sûr de ça que il a tourné alors que le scénario n'était pas fini?
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le film n'était pas abouti au moment où il a attaqué.
Oui.
Sinon, ça aurait été quelque chose de plus intéressant. Mais c'est quand même quelque chose de correct au final quand tu le vois.
Ouais, mais je pense que tu mets le point sur un truc intéressant en fait sur la saga Alien. Je pense que si tu regardes bien, ils prennent à chaque fois des réalisateurs visuels. Et au moment où ils arrivent, ces mecs-là, il y a toujours une bataille sur le scénario. Même sur le premier, hein, moi j'ai appris des trucs sur le premier, il y avait toujours une bataille sur le scénario. Et je pense que voilà, la saga, c'est ça à mon avis. C'est, t'as des archétypes et il faut que t'aies un cinéaste visuel qui les mette en scène et qui transcende le schéma de départ en fait.
Vous parliez en même temps tout à l'heure, Corentin, t'avais un truc à dire ?
Non, je disais qu'il avait, il y a rien de scandaleux dans ce film à part le newborn peut-être. Qui est cette espèce de mutant un peu dégueulasse qui est raté visuellement.
Oui, bah, hein,
on est tous d'accord. Mais après, sur le reste du film, c'est un film qui a la patate, qui est très bien.
Qui a le cul entre deux chaises.
Moi, j'avais l'impression de Patchwork, c'est-à-dire qu'il prenait des petites parties des trois premiers, des bons moments des trois premiers, disant mais voilà, vous avez aimé les films, mais je vous refais. J'ai repris des morceaux de différents gâteaux, je vous le resserre. Et la chose, le petit bonus que moi j'avais beaucoup aimé, mais au cinéma ça rendait vraiment bien, c'est quand les aliens, le passage sous l'eau.
Sous l'eau.
Oui, là, effectivement, c'était le bonus du
parcours.
Et bon, c'est-à-dire 2 minutes sur tout ce qu'il y avait, quoi.
On est d'accord, je suis d'accord.
Après, cette scène-là, les qualités de ses défauts, c'est-à-dire que beaucoup ont regretté, dont moi, qu'on voit l'alien sous toutes les coutures maintenant. Mmh. Alors que, bon.
C'est une scène de seconde équipe en plus. C'est assez rigolo.
Oui. Ah ouais. Tu vois. Il faut savoir aussi que pour cette scène-là, Winona Ryder a la phobie de l'eau. Donc ça a été très très dur de tourner
un
tournage.
Vu le prix où elle est payée, honnêtement, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est les genres de trucs production, c'est les notes de production. J'avais peur du vide, mais bon, j'ai pris 2 millions de dollars. Alors, voilà.
Non, mais je pense que c'est pour ça qu'on la voit plus. Ils doivent lui proposer que des films avec de l'eau maintenant, du coup.
Exact.
Reste chez elle.
Parce qu'il y a de. Alors bon.
J'ai rien contre toi, hein, Thomas. Non. C'est vrai que cette anecdote, elle me fait sourire à chaque
donc,
fois.
Donc le scénario du 4, donc Ripley donc, se suicide à la fin du 3, mais elle est clonée par l'équipe de la compagnie.
Oui, c'est vrai.
Génial.
Ce qui amène une belle scène quand même, la scène où elle découvre ses clones.
Ça, c'est très bien. Ah oui, ça, ça les crame tous. Ça, c'est très joli. Caro, la cité des enfants perdus.
Il y a aussi. C'est l'épisode aussi qui est le plus gore et le plus humoristique.
Oui,
il y a quand même des scènes où il y a un mec qui sent qu'il va son estomac va être détruit et il se prend quelqu'un pour l'empaler avec l'alien qui sort de l'alien son estomac. Ron Perlman qui flingue plein d'aliens, il a tellement peur qu'à un moment donné il a une araignée, il la flingue au même titre que les autres aliens, il crie face à la caméra.
Moi, j'ai plus pris pour du foutage de gueule, moi, à un moment donné. C'est-à-dire que
C'est du Jeunet.
Ouais,
Jeunet qui arrive à dire moi je signe si vous me mettez Pinon, sachant que c'est son acteur phare depuis le début.
Ouais.
C'est son Jean-Pierre Léo à lui, t'es là, bon. Et qui s'amuse à dire à le faire handicaper, où il est complètement insensible des jambes, et t'as des gouttes d'acide qui tombent sur les jambes, et il fait mais je sens rien.
Non, mais. Ça,
c'est du foutage de gueule, mais
ça, je trouve ça fun. Mais après, le coup de la cervelle là, qui sort de, dans sa main, le coup de l'araignée, pour moi, c'est de la mise en abîme. C'est-à-dire, les gars, je suis en train de faire un alien, hein, c'est de la connerie. Enfin, voilà, bon, moi, au bout d'un moment, ça, c'est. Voilà. Mais après, c'est mon avis perso. Hein, c'est pas.
Ouais.
Non, ça passe.
Ça passe.
Il y a
ça
pire, il y a eu le 2.
Il y a Prometheus.
Il y a pire.
Alors, voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur les 4 épisodes de la saga Alien. Évidemment, vous aurez compris que si vous voulez vous farcir de l'Alien en tous les sens, il faut aussi voir les Aliens versus Predator. Enfin, il faut, entre guillemets, bien sûr.
J'aime beaucoup le 2, mais parce que j'ai un côté un peu déviant. Voilà, ça c'est le côté nanardesque, hein, le Alien, le AVP Requiem.
Beaucoup plus Strauss,
là on est tous d'accord. AVP, c'est vrai, ça se regarde que pour du nanar. Donc voilà, tu prépares entre potes une soirée nanar avec bière, chips et compagnie. Et donc, rigoler sur les gueules du film.
Donc maintenant, nous allons attaquer la patate chaude. Donc nous allons juste faire une coupure musicale du sport. Tu vas passer le film qui s'appelle le 3, je crois. Ça commence par Prometheus.
Prometheus, Life.
C'est ça.
Elle Prometheus Ridley.
Léus de raquette, Prometheus de raquette. On va pas toutes les faire tout de suite. Hein.
Ah ouais.
On va attendre un peu.
Vite. Et alors, voilà, nous avons donc passé la saga Alien.
Oui, on maintenant, est en train allons... de Star Wars, donc oui, on l'a voilà. passé. Hein.
Donc maintenant, nous allons parler de l'actualité. Donc le film d'actualité, bien sûr, c'est Prometheus, le retour. Donc évidemment, ça a été répété partout, de Ridley Scott à la science-fiction, depuis Blade Runner, il n'avait jamais fait de film.
Il a lui-même dit. Hein.
Oui, bah, c'est le retour, mais...
Il l'a regretté, je pense.
Ouais, je pense qu'il le regrette, là, actuellement.
Je suis pas sûr.
Oh, non, loin de là. Soyez pas négatifs. Soyez pas déceptifs.
Il est déjà en train de défendre une potentielle version de 2h20.
Alors,
donc, il ne faut pas oublier que c'est aussi une trilogie qu'il compte faire dans la
Ah oui, effectivement.
D'ailleurs. Avant de troller, les origines du projet, est-ce que quelqu'un, toi qui as suivi pas mal l'évolution du projet sur les forums et qui...
Oui, je peux te faire un petit résumé. Donc, enfin, moi, j'ai suivi, enfin, à la base, hein, le projet dès qu'il y a eu une annonce hein, de la part de la Fox. Donc, ça s'est monté comme ça. C'est-à-dire que c'est parti de la Fox voulait relancer la saga. Donc, elle a proposé, elle a fait un peu le tour de Scott, Cameron, etc. Donc, Scott a dit qu'il serait intéressé pour produire et qu'il aimerait bien raconter en fait l'histoire du vaisseau, le Derelict. Que les passagers du Nostromo trouvent dans Alien 1 en fait hein, sur
donc
la planète.
Le géant au pit défoncé qui s'appelle le Space Jockey.
Voilà. Exact. Ouais. Donc du coup il y a un John Spaight, je crois que ça se dit comme ça, John Spaight qui a écrit un scénar et ça devait être confié à Carl Rinch, le gendre de Ridley Scott. Donc voilà, ça c'est bon voilà, il produisait, il y a échangeant qui réalisait, c'était l'histoire qu'il voulait voir. Bon, tout le monde était content sauf la Fox qui voulait un vrai film pour relancer la franchise et avec un vrai nom derrière. Ouais. Donc
d'après Wikipédia hein, la Fox qui détient donc les droits avait dit que si Scott faisait le film il n'y avait pas de problème, sinon bon bah, il fallait laisser tomber hein.
Voilà, c'était un peu
c'était un peu
la condition sine qua non. Donc du coup Ridley Scott s'est retrouvé parachuté sur le film et il a commencé à exiger des trucs incroyables, un budget de 250 millions de dollars, un classement R, il voulait vraiment quelque chose d'extrême.
Donc le classement R c'est très violent. Hein,
ouais,
c'est...
voilà.
Ouais. Ouais. Et, il se fichait éperdument du register, de la classification. Ouais. Il a dit je fais le film que je veux, avec le budget que je veux, et je veux pas que ce soit du PG, je m'en fous royalement. Si je suis classified juste pour les adultes, eh ben tant pis. Mais au moins je le fais. Parce qu'entre temps, bon, il y a eu l'Avatar et il s'est dit, je vais avoir quelque chose d'aussi beau et de réussi que ça. Mmh. Et il y a eu le Dark Knight qui est sorti après, qui a dit, voilà, maintenant, les films pour ados, ça suffit, hein. Si vous voulez que ça dure, faites des films pour adultes. Ne pensez pas à votre public, mais faites comme vous avez envie de voir votre film vous-même.
Oui, tu as dit le mot Avatar, on va revenir après sur la genèse du projet, mais Scott a clairement dit, il a clamé haut et fort que lui c'était sa réponse à Avatar, ce qu'il voulait. On voit qu'il y a une vieille rivalité entre les deux, hein, de Cameron et Scott
Mais Scott au départ était un jaloux. Son début de carrière, il était jaloux de Alan Parker au moment des duellistes. Parce qu'effectivement, Parker à un moment sortait Midnight Express, sortait d'autres films qui cartonnaient, qui étaient très forts, et il voulait arriver à ce niveau-là. Après, il est arrivé Cameron, il s'est dit tiens, ben j'ai Manuel Bête Noire, et bon, il fait ce qu'il peut, mais. Moi, je trouve qu'il dépasse de loin, quoi.
Oui, mais bon, ceci dit, mettre dans la même catégorie Prometheus, The Dark Knight et Avatar.
On est d'accord, on n'est pas dans les mêmes types de films, ça c'est sûr.
Il y a un défaut.
Vous parlez de la qualité ou du public visé
tout le public, la qualité, les cultures. Non, mais ça a juste été des films marquants, des films jalons. Là, tu as parlé de Dark Knight parce que pour le coup, on est passé sur une narration adulte et avec un scénario bien plus développé.
Beaucoup plus noir aussi.
Beaucoup
d'ailleurs.
Plus noir surtout.
Oui voilà. Toi, si vous voulez bien, on va troller après. Mais voilà. Alors retour à la genèse.
Du coup, Ridley Scott récupère le bébé et comme tu l'as si bien dit, donc il veut faire son film. Donc on parle bien d'un Alien 0 entre guillemets. Et puis au fur et à mesure en fait des réunions, il décide de se détacher du film. Donc ce qui est valable. Hein. Moi je reconnais ça vraiment. Enfin c'est une très bonne décision. Donc il décide de se détacher du film. Donc il y aura des éléments. Donc ce sera dans le même univers, mais il y aura pas forcément d'aliens et tout. On va dire tout le folklore qu'il y a dans les films aliens. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on remonte un an en arrière, donc les gens appelaient ça. Ben en fait c'est un film sur la jeunesse d'aliens. Alors il y aura peut-être pas des aliens, mais en fait il y en aura, mais ils seront différents. Mais peut-être qu'il y en aura 8 minutes à la fin. Puis parler d'ADN commun. Donc c'était un peu le flou. Et puis est rentré dans la
dans la danse, moi ce que je considère le gros défaut majeur du film, c'est-à-dire la personne de Damon Lindelof qui est le scénariste de Lost, donc je le résumerai à ça. Et du coup voilà, il est rentré dans la danse.
Il a également fait une excellente série avant Lost, c'était Preuve à l'appui, également avec Tim Curry d'ailleurs. C'était vraiment une très bonne série quoi. Donc voilà, quoi, il s'est un petit peu égaré sur Lost, mais enfin bon, tout le monde, on va dire, même les spectateurs, donc il n'y a pas de problème.
Quel humour.
Donc du coup lui est rentré un peu dans la danse pour essayer de sortir le scénario de John Spaight en fait des guêtres de la saga Alien et en faire quelque chose de nouveau, et du coup ça s'est appelé Prometheus. Voilà.
Du nom du vaisseau
d'exploration financé par la Weyland Company.
Très bien, donc merci pour cette genèse du projet. Donc Prometheus, le retour de Scott à la SF, tu as bien expliqué les rapports avec la mythologie alien, entre la préquelle, le reboot, le dérivé, bon voilà.
Il y a même le rebirth, j'ai entendu ça il n'y a pas rebirth. Longtemps, la rebirth.
D'accord, c'est un nouveau terme.
C'est très bien le rebirth.
La renaissance.
Donc les space jockeys qu'on voyait dans le premier film, enfin le space jockey, le géant, donc sont appelés les ingénieurs dans ce nouveau film Prometheus.
Pourquoi on ne saura pas?
Non, on sait pas.
Alors
visiblement la distillée.
Après il faut voir, il faudra revoir le film en VO, voir si le terme ingénieur n'est pas juste une traduction française.
Non, je confirme, je l'ai vu en VO.
Ouais. C'est ingénieur.
Ils appellent les ingénieurs parce que ce sont ces créatures qui sont censées avoir créé la race humaine avec à base d'expérience, donc c'est pour ça qu'ils les appellent les ingénieurs.
C'est ce que savent les scénaristes, hein, parce que nous on n'en sait rien. Enfin...
Le vote.
Essayez
d'éviter de polémiquer à tout bout de champ. On aura une niche à la fin de cette chronique sur le film. Alors déjà, pour couper court à la discussion de beaucoup de fans dessus, puisque pas mal de fans à la fin du film, donc on va pas trop spoiler non plus, mais il se passe quelque chose qui tout porte à croire que la fin du film est le début d'Alien.
J'adore comme tu présentes ça.
Space jockey, sauf qu'il ne se passe pas ce qui aurait dû se passer pour que ça fasse le lien parfait avec le premier film Alien de 79.
D'où le fait
d'où le fait que c'est une trilogie, mais aussi du fait que ce n'est pas la même planète.
La chronique par la fin.
Ouais,
j'ai vu quelque part que c'était pas la LV-426.
Non,
mais
c'est la 223.
La
223. Et ça change tout.
Voilà.
Qu'est-ce que ça change?
Non, mais.
C'est pas la même planète.
Ça change
c'est la moitié.
Mais sur la 222, il y a les Predators.
Non, mais.
Sur la 225.
c'est que des gens sympathiques.
Mais non, parce que. Alors, du coup, si j'ai bien suivi, vous êtes pas content parce que la planète sur laquelle ça atterrit le Nostromo dans le premier. N'est pas la même planète que celle sur laquelle atterrit le Prométhée.
Oui, parce que beaucoup de gens ont cru que c'était la même planète.
Voilà.
Mais
sauf que,
débat,
sauf
mais
que
après...
sur le là où atterrit le Nostromo, on n'a pas du tout de traces de dôme énorme, on a juste un vaisseau.
Oui, mais en même temps, c'est très brumeux, donc peut-être qu'ils sont passés à côté.
Donc peut-être que potentiellement, ce serait un vaisseau qui se serait échappé de l'autre planète.
Tu serais arrivé un peu loin là dedans.
Les gens qui n'ont pas vu Prometheus ne comprendront pas trop si on spoil, si on va dans les détails. On va essayer d'éviter autant que possible.
On veut parler poulpe.
Hein. On va quand même parler du film.
Ouais.
Quoi.
Bon, c'est vrai qu'il y a un poulpe dedans.
Tu peux faire une citation que j'ai vue sur un forum. Il y a un mec qui a appelé ce film Viol de mon enfance. Voilà. Je voulais juste le dire, je trouvais ça fun.
Alors moi je suis absolument pas d'accord.
Donc il a vu Alien quand il était enfant le mec.
Ouais.
D'accord.
Voilà, peut-être. Non mais c'est carrément extrémiste. Qu'on parle de Dragon Ball Evolution comme un viol de notre enfance.
Oui, là on confirme.
Ça, oui.
Là complètement. Là alors c'est ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens ont été énormément déçus. En fait,
de quoi?
Mais du film de Prometheus.
Ah, je croyais que tu parlais de Dragon Ball.
Non, mais ça c'est une anecdote.
Ça,
on a jamais.
Sauf pour le réel et le producteur.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens comme tout le monde ici qui a vu tous les aliens et qui en attendaient énormément le retour de Ridley Scott, ce qu'on a dit à la
comparaison
à la réalisation.
Avec Blade Runner, qui est quand même pas anodine. Enfin.
Voilà. Et effectivement, Ridley Scott a fait un film
Papa
qui n'est pas
aux
mauvais.
Affaires.
Qui a quelques problèmes scénaristiquement parlant. Quelques problèmes. Mais après, j'ai entendu des gens à la sortie du truc qui disent mais n'importe quoi, c'est quoi cette histoire d'huile, c'est quoi ce Facebooker
on va déjà y aller frontalement. Bon, oui. Alors le truc, c'est que d'abord, la saga Alien, c'est un film de monstre, c'est un film d'angoisse, etc. Le film Prometheus, c'est ce qui s'annonce comme la franchise Prometheus, c'est plutôt un film, une histoire sur la quête des origines humaines. Ce qui fait que, alors moi, j'ai pas mal pris de recul sur ça, puisque c'est principalement
ce qui est ambitieux d'ailleurs, ce qui fait l'intérêt du film,
c'est principalement ce que je reprochais au film en sortant de la projection. C'était comme si c'était un film créationniste. À mon sens, il n'y a qu'un film qui a réussi ça, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il faut s'appeler Kubrick pour réaliser un long métrage dessus.
Moi, je serais tenté de citer Sunshine à moindre, je ne compare pas 2001 à Sunshine.
Je pense, parce qu'on est allé voir le film ensemble. Hein, donc, moi, je pense que, comme tu viens de dire, Corentin, que le film a des buts adultes, que le film a des défauts. Effectivement, il y a des quelques boucles scénaristiques qui collent pas, mais on s'attend à ce qu'au final, ce film-là était un cut d'une version longue beaucoup plus explicative, beaucoup plus justifiée dans les enchaînements des scènes, mais le scénario tient la route.
Je voudrais
quand même continuer et après je vous laisse la parole.
Oui, bien sûr, on t'écoute.
Il tient la route, on l'a vu ensemble. Chaque scène s'enchaîne avec un fil qui se suit. Après, Ridley n'a jamais voulu faire des films, on va dire pour adolescents. Quand on parle de science-fiction ou du cyberpunk, il y avait déjà des questions dans Blade Runner. Est-ce que je suis un humain ou est-ce que je suis un robot? Il y avait déjà des questions dans le premier Alien. Là, c'est pareil.
Déjà des thématiques. C'est lui qui avait dans le premier Alien là, les androïdes. Bon, tout est la parenthèse. C'est le premier réalisateur, donc c'est quand même lui qui a introduit les androïdes.
Je voudrais faire une parenthèse là-dessus sur l'Alien 1. Je pense pas qu'il y ait de grandes questions métaphysiques dans Alien 1.
C'est une série B, c'est un début et le propos est adulte.
Précis dans les termes. Là, on parle de scénario. Je parle pas de thématique. Des thématiques, il est évident qu'il y en a. Mais à mon avis, d'ailleurs, je ferai une comparaison assez osée par rapport à Ghost in the Shell, par exemple, qui lui, quand même, l'archétype de la question philosophique. Qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce que l'âme? Etc. Par exemple, mais qui était l'ancêtre.
Alors, dans ce cas-là, moi, je pense franchement qu'il a essayé de faire son 2001 de très loin.
Oui. Je pense aussi, mais bon. Alors,
et c'est beaucoup plus du 2001 que du Ghost. Hein.
Du coup, il a gardé une bobine en fait, c'est ça? Non.
Essayons de ne pas perdre les auditeurs, on va se structurer un peu là.
Ça, on le verra à la sortie du film en DVD, dans 4 à 6 mois. Il faut compter autour de octobre, novembre, Noël. Enfin, le but c'est que le film sorte sous votre sapin à Noël. Et vous aurez une version longue, plein de bonus qui expliqueront sans doute.
Mais ça vous fait pas râler qu'on filme des films à moitié?
Oui, voilà, j'allais te dire la même chose, les films en kit, quoi.
Non, mais voilà, vous voulez voir le vrai film, achetez-le après.
Stop. Alors, on va d'abord on va s'attaquer ensuite aux qualités et aux défauts du film juste après. Mais avant, est-ce que justement la flopée de reproches que le film Prometheus s'est pris sur la tronche, est-ce que c'est pas juste parce que les gens attendaient de l'Alien et qui n'ont pas eu de l'Alien et qu'ils ont eu à la place un film créationniste?
Donc l'autre question, c'est
est-ce qu'il faut être un mordu de Alien pour est-ce qu'on peut être, on est automatiquement taxé d'être trop pro-alien pour se permettre de descendre Prometheus, qu'on peut juste pas le descendre en tant que film mauvais?
Non.
Ce qui n'est pas, attention, moi je pense pas que ce soit un film mauvais et je pense pas que ce soit un film 100% réussi, mais je pense qu'il a certaines qualités aussi. Mais je pense que Ridley Scott
a bon fond, moi, au départ, ce film.
Il y a un film sublime potentiel dedans.
Je pense que Scott a eu suffisamment les couilles pour prendre à rebousse-poil la franchise originale pour aller sur totalement autre chose, et je pense que son propos et son but a été un peu noyé.
Oui et non. C'est-à-dire qu'il part sur autre chose, mais dans le déroulement, si tu fais mathématiquement, dans le déroulement, on est dans Alien.
Non, puis même, moi, j'allais dire, ça n'engage que moi, mais quand je vois Prometheus,
c'est intéressant.
J'allais dire, je le démarquerais complètement de la saga Alien.
Mais en même temps, c'est ce qui était dit au départ. Oui, vous saviez que ce film-là n'était pas un film d'Alien.
Mais je réponds à la question. Pour moi, c'est exactement ça. On n'aurait jamais dit c'est le préquel d'Alien, on va voir Prometheus, ça passe, il n'y a aucun problème.
Bon, en quoi le film, alors déjà on va commencer par les bons points du film, en quoi le film est potentiellement réussi?
L'ambiance viscérale.
l'ambiance,
ouais. L'esthétique magnifique, le production design, okay.
Quelques scènes qui sont d'un point de vue de réalisation complètement magique, la tempête de métal, ouais. De cailloux tranchants, on a la césarienne,
l'auto césarienne,
même si c'est très cartoonesque dans la veine d'Hannibal qu'avait fait Ridley Scott, c'est-à-dire on va à Franco dans le cartoon, mais quand même la scène fonctionne, même si il y a des
codes de goût aussi, ça.
Oui, bon, c'est pas de la SF, donc on va pas non plus. Il a tellement une fibre, tellement riche.
Il a pas fait que des bons films. Hein.
T'as Manhunter de Michael Mann, hein. T'as Le Silence des Agneaux et derrière, hein, et derrière t'as Hannibal, sérieux quoi. C'est un film Rital quoi. C'est un Lucio Fulci vu comme ça, c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà.
Donc, non mais dans les bons points, moi je mettrais aussi la 3D parce que là pour une fois on sent bien que ça a été pensé et réalisé pour la 3D, donc on prend réel plaisir à le voir en 3D, ce qui est assez rare quand même, il faut le dire.
Et moi tu vois la 3D, je la mettrais dans les défauts. Je te donne un exemple. Je veux pas faire le procamonde, attention, hein, je veux pas faire le procamonde. Si vous prenez une scène d'Avatar, la scène avec les Banshees, donc l'attaque des hélicos.
C'est quoi ce film?
La
bande démo.
Tu vois, la 3D amène une profondeur, tu vois arriver des choses à l'arrière-plan, donc ça amène quelque chose dans la construction du film et dans l'ambiance, dans le suspense, etc.
Ah, la bataille des hélicos.
Vous prenez la scène dans Prometheus. Avec l'espèce de, allez, je vais être poli, le cobra. J'appellerai pas ça autrement, je vais appeler ça un cobra. Hein.
Mais toujours, donc, Stallone n'est pas loin.
On est en 3D. Il tourne en 3D, hein, ça n'a pas été post-produit. Il n'y a aucun jeu sur l'arrière-plan pour amener du suspense. La 3D est simplement artificielle pour créer une profondeur parce que c'est génial, hein, parce qu'on a deux yeux, hein, ça fait une profondeur. Mais sa 3D n'amène rien.
Est-ce que la visualisation du monde en 3D peut redéfinir
la 3D, tu vois ce que
mais
je veux dire?
Par exemple, quand il y a David qui va activer la carte spatiale, t'en prends plein les yeux.
Mais c'est plus gadget, on est dans le contemplatif, tu vois. Michael Mann,
un peu basique en fait.
Sans, comment dire, Michael Mann un peu fatigué, tu sais, qui a la migraine ou quoi, il fait la même. Tu vois, voilà, enfin pour moi c'est ça quoi. Enfin voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est magnifique. Mais je trouve que c'est pantouflard quoi.
Après qu'il y ait des incohérences, moi je pense qu'on a bien compris que je n'étais pas un pro. Hein. Ouais.
Non, mais j'ai raison.
Il y a le film, c'est vrai, des incohérences, certes, mais comme je disais, il a bon fond, il essaye d'apporter des choses, de poser des questions, ça change comme type de film. Il nous rappelle qu'il n'est pas là pour faire de l'SF pour ados, ça suffit, les Stargate et compagnie, hein, les Avatars.
C'est de la dark SF, tu as raison.
La 3D, il en a fait ce qu'il a. Moi, j'ai entendu du mal de la 3D, j'ai toujours entendu dire que la 2D du film était bien meilleure. Que au point de vue des rendus des couleurs, ça avait plus de panels. Et c'est pas son but. Enfin...
Non, puis au final, c'est pas l'intérêt du film. Que ce soit le 3D ou 2D, je ne
pense
pas que le film doit se refuser.
Enfin,
c'est pour faire vendre.
De toute façon, un grand film, ça se regarde en 2D sur un petit écran de 26 cm. Hein,
je pense qu'on va quand même, dans les bons points, même si le casting va se faire sur deux points, parce qu'il y a du bon et du mauvais, on va quand même insister sur les qualités du film au niveau casting, qui sont surtout l'androïde Michael Fassbender en David.
Fassbender, Naomi Rapace, oui. Geepers jeune teaser,
ouais. C'est bien. Ouais, il est très bien dans les vidéos virales. Ouais.
Mais évidemment, on est tous d'accord. Geepers maquillé en vieux, non. Ça passe pas.
C'est inutile, surtout dans le film, ça apporte rien.
Charlize Theron,
ça tombe à plat.
Charlize Theron, évidemment sous-exploité, et on comprend pas le rapport avec son père.
On comprend qu'il y a un potentiel dans ce personnage qui on sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec.
Il y a un potentiel dans le film.
Non mais on voit de suite le potentiel de Charlize Theron. Par hasard, je suis allé voir très récemment Snow White. Là, on voit du vrai Charlize Theron qui a un
tu veux dire quand elle joue sur sa sensualité et tout. Là, c'est vrai qu'elle est plus glaciale. C'est ça qui t'a choqué, qu'elle soit glaciale dans le film?
Ah, pas du
tout.
Non,
c'est qu'elle sert pas à grand chose.
Elle n'amène rien.
Non,
elle
mais
rien
mis à part le clin d'œil à Alien, tu te réveilles d'un voyage cryogénique, tu vas faire des pompes.
Ouais. Oui, sauf que dans Vasquez, ouais. C'était.
Et t'as deux mecs bloqués dans une pyramide, est-ce que tu vas baiser avec le commandant?
Voilà.
Qu'est-ce que c'est nul!
Non, mais c'est Idriss Elba.
Au-delà de ça, ils ont quand même tous des capteurs de vie, des enregistreurs, ils ont des positionnements GPS, et ils justifient ça par les deux gars qui ont voulu fuir, dont un des deux, et qui était quand même le chargé de reconnaissance, c'est lui qui a lancé les drones, qui dit « Ah ben on s'est perdu alors qu'on est allé en ligne droite !» Et ensuite, attention, la tempête, on peut pas communiquer, alors qu'en fait, on communique sans problème.
Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais vous donner mon avis complet, c'est-à-dire que dans un Alien, on a des personnages qui sont archétypaux, hein. On est d'accord, hein.
Il y a des déchets, il y a des gens qui sont toujours pour remplir.
Et jamais, Mais pourtant, Dieu sait que j'aime pas le 3. Dieu sait que j'aime pas le 4. Dieu sait que j'aime pas les AVP. Hein, ben, on est tous d'accord. Jamais de ma vie, pourtant j'ai vu des films, je n'ai vu un film où les personnages étaient aussi stupides. Stupide, c'est-à-dire que, comme tu le dis si bien, tu as un personnage qui est géologue, hein, on est d'accord. Il t'explique par A plus B pendant 2 minutes qu'il a un truc de reconnaissance, nanana, qui te construit donc une pyramide. Il y a que des couloirs qui vont de gauche à droite. Il trouve le moyen de se perdre. Donc, on enlève les casques dans sur une, on est scientifique, on enlève des casques parce que génial, il y a de l'atmosphère. Mais tout ça, hein, j'ai une petite fille de 5 ans, elle ne le ferait pas. Je ne comprends pas comment, avec un budget pareil, autant de personnes derrière ce projet ont pu laisser passer des dialogues aussi stupides, des situations. Il y a un mec qui joue de l'accordéon dans un... Mais vous voyez le truc ?
Oui, et puis surtout, à chaque fois qu'on sort l'argument de l'incohérence de dire « Oui, mais ce sera répondu dans la version longue », je suis persuadé que non.
Mais moi aussi, j'en suis persuadé.
Oh, l'accordéon, peut-être ?
Non, mais c'est complètement
c'est pas la question.
Si tu vas voir un passé du personnage sur Terre, il va jouer de l'accordéon, tu vas voir.
Moi, je vais vous dire, le film, je vais l'avoir, hein, je l'aurai chez moi, ce film-là. Mais visuellement, il est génial. Il a juste un mauvais scénario, c'est tout. Mmh. Oui, les idées sont grandioses. Les thématiques sont géniales.
Il n'y a pas que ça.
Même un mauvais scénario.
2001, vous vous êtes dit, il y a des problèmes de scénar, alors que.
Oui, oui.
Non, il n'y en a pas.
Ah, si, je te promets, on peut en discuter.
Il n'y en a pas.
Et ensuite, t'es pas besoin de cultissime. Ok, le film est génial, j'ai adoré 2001. Il a des défauts, c'est clair et net. Mais là, j'allais dire, comparer 2001 à ce film-là, c'est une insulte.
C'est une insulte.
Non, moi je pense qu'il a essayé de faire son 2001, qu'il n'est pas arrivé.
Ah oui, il n'est pas arrivé.
Mais qu'il a fait quelque chose de lancé dans cette vision-là et qui est correct. Moi je m'attendais à bien pire. Je m'attendais encore à un RSS AVP.
Je te réponds par un seul argument. Ils disent au départ, il y a 17 personnes sur le vaisseau. Déjà, on les voit jamais.
Oui, déjà.
Clair et net. Mmh. Deuxièmement.
Si, tu les vois tous quand ils sont tous appelés, assis en rangée.
Voilà, la seule fois où tu les vois. Et ensuite, on en reparlera plus jamais. Et ensuite, t'as la moitié du casting des personnages dont on parle qui disparaît purement et simplement. Oui. Sans aucune justification.
Ouais, on nous fait signer en régie que le 2001, malgré ses qualités, le scénario est plat et c'est pas pour le scénario qu'on adore le film.
Mais non, mais parce que justement, t'as une musique, ça te transporte tellement ailleurs que t'as pas besoin. Là, ça te transporte, mais à la sortie.
C'est le dernier quart d'heure sur les 2h30, 3h de film.
Alors sinon, nous allons poser la question.
Attends, je voudrais juste, si ça te permet de rebondir sur ce qu'il dit sur les 17 personnes. Hein. J'ai noté un truc en y réfléchissant, je pense que ça va te faire rigoler. C'est-à-dire que quand les deux, le commandant de bord, décide hein, sur sa simple sur une simple on va dire impression
ouais, attention
hein,
spoiler
de, voilà de d'aller se cracher sur le vaisseau alien, donc t'as deux autres gars qui disent ouais génial allez on va les suicider sauf que
plus ou moins ça,
ont-ils demandé aux gens qui étaient à bord du Prometheus s'ils voulaient mourir?
Il y a Charlize Theron qui évacue, c'est tout, point barre.
Non, mais je crois qu'il y en a que 3 dedans.
Non,
il y en a 9 en tout en fait quand tu calcules.
Oh merde.
Eh oui,
je rappelle que le capitaine est maître à bord et que le capitaine a droit de vie et de mort sur ses...
Moi, je soupçonne...
Justifiant, injustifiable.
C'est toujours comme ça. Hein.
Je soupçonne les producteurs d'avoir fait cette scène exprès pour qu'on voit une partie de l'anatomie de Charlize Theron qui est en train de se dessaper.
C'est très bon.
Vas-y, parlons-en justement de la scène de l'évacuation. Pourquoi est-ce qu'il n'attend pas que Charlize...
Il leur donne le droit de vie, de leur dire « Vous sortez du bateau. »
Ouais, mais tu peux pas sortir un truc comme ça.
Du sport. Toi qui n'as pas vu le film, est-ce que tu comprends quelque chose et est-ce que ça te donne envie d'aller le voir ou pas?
Ah ouais, tout à fait, ouais.
Mais c'est à voir.
Ne serait-ce que pour dénouer le canevas un petit peu compliqué, quoi, que vous êtes en train de monter, là, il n'y a pas de problème. Hein.
Non, mais une question toute simple, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu 2 minutes que Charlize Theron aille dans le pod d'évacuation et parte avec? Pourquoi il l'a jeté direct et qu'il a dit, bon, maintenant, t'as 3 minutes pour partir, sinon t'exploses avec nous? Quel intérêt?
Si, bon, je me rappelle très bien, le
vaisseau est en train de se barrer.
Je me rappelle très bien au début de l'émission que j'avais dit qu'on n'allait pas spoiler, donc ça c'est mort.
Les gens l'ont vu.
Ah non, du spoil on l'a pas vu.
Pas tout le monde.
Mais ça fait rien, j'ai rien compris quand même, alors c'est pas grave.
Mais ouais.
Ce que j'ai l'impression, c'est qu'on pinaille un peu quand même.
Non,
oui.
On pinaille. Bon, et effectivement, il y a des moments où je me suis demandé s'il y avait vraiment un réalisateur sur le plateau quand il tournait certaines scènes où on voit Idris Elba avec son petit plaid comme s'il avait froid dans un vaisseau spatial.
Ils sont en tong aussi, ça c'est génial.
Dans le genre détail scénaristique, je pense que tu apprécieras juste valeur. Juste gratuitement, il y a quelqu'un qui rajoute quand justement il lance les drones qui fait -27 dans la caverne.
Oui.
Pourquoi?
Et finalement, ils enlèvent leur casque. Et
j'ai, tout, etc. J'ai une autre question aussi. On a tous vu hein, Le Seigneur des Anneaux, hein, ou un film bien réfléchi, où on sait où on va, à quel endroit on est. J'ai une question à vous poser. Vous aviez tous compris que le vaisseau, il était à 2 km de la salle des amphores. C'est-à-dire quand il rentre dans la pyramide, dans cette fameuse, bon, fameuse pyramide. Oui.
La
salle où il y a les cobras, si vous préférez.
Là, avec la statue de.
Voilà. Et ben, le vaisseau, il est où?
Le vaisseau de qui?
Le vaisseau
avec
alien.
Lequel ils partiront
après. Et la salle, elle est dans le vaisseau alien, non?
Ben non, elle est à deux bornes. Elle a deux bornes. Il y a des gens qui ont fait des schémas sur internet pour expliquer.
Alors ça, c'est parce que t'as pas suivi le film en fait, parce que le petit louveteau qui s'arrête et qui bip quand il y a en disant qu'il y a une forme de vie.
Oui.
Il est à l'endroit où va aller après David pour ouvrir la salle.
Ouais.
Et donc arriver au vaisseau.
Il y va à pied.
Mais voilà. Si tu regardes,
bien. Non, mais
si
voilà, c'est là où je voulais en venir.
Si tu regardes la carte,
dans le Seigneur des Anneaux, ils arrivent pas au Mordor et ils sont pas d'un coup à Isengard ou ailleurs.
Mais tout à fait. Il faut voir la scène où David part pour explorer le vaisseau pour la deuxième fois tout seul sans rien dire, qu'il trouve la carte du Pestlord commandant. La scène suivante, il est avec eux dans la salle de la statue. Donc
oui, bien sûr, il y a de la téléportation de personnages. Ben, mais il y en a plein. Il y a des apparitions.
Ça sert à quoi?
Parce qu'on a des problèmes.
On va arrêter de pinailler, puisque là, on a spoilé en large le film.
Pourquoi ce poulpe, bordel? Pourquoi ce poulpe aussi gigantesque?
Est-ce que, très honnêtement.
Oui. Et pourquoi cet alien à tête de dauphin?
Bonne question.
Parce qu'il aime les Zentai.
Très honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas une toute petite partie dans ceux qui sont déçus en vous? Et vous pouvez répondre franchement, vous êtes déçu parce que vous aviez des attentes et qu'elles n'ont pas. Je pense qu'il n'y a pas répondu.
Les gens qui attendaient le film ne peuvent en aucun cas être satisfaits. À mon avis, quel que soit le film qu'il y
ait. Oui, non, mais justement, est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas trop attendu le film et qu'on n'a pas eu envie de voir et qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait?
Voilà, il aurait pu faire n'importe quel film, il y aurait de toute façon eu des gens mécontents et des gens à râler et des gens à lui tomber sur la gueule.
Je parle de vous.
Comme vous, là.
Ouais, ben moi, mais personnellement, voilà, si tu veux mon sentiment, je vais te dire très sincèrement, j'avais aucune attente en allant voir le film. J'avais pas d'attente, je suis pas un fan d'Alien à la base. Donc voilà, c'est même pas un truc où j'avais une attente particulière. Je suis allé le voir en neutre, justement. J'allais dire, allons voir ce qu'il en a fait, sa vision des choses, parce que du coup, il y a quand même à chaque film Alien une vision assez précise, justement, de la chose. Et voilà, j'ai vu ce film, forcément, j'ai été personnellement très déçu, mais c'est parce que je m'attache énormément au scénario, et alors là, j'ai été gâté. Et ensuite, comment dire, on me dit beaucoup les thématiques, le créationnisme. Les thématiques, style le créationnisme. Réfléchissons-y deux secondes. Le film débute, c'est la première scène. On voit un alien, donc un ingénieur, qui se suicide sur Terre. En slip, oui.
Mais et super musclé aussi.
Déjà, on ne sait pas ce qu'il a, mais peu importe. Et donc, il se dissout dans l'eau et on voit son ADN qui est censé avoir créé la vie sur Terre. Donc, ensuite, ce sera la thématique centrale du film. Et tu réfléchis deux minutes. Ensuite, ils retrouvent des cadavres momifiés. Ils te disent datation ADN. Déjà, le carbone 14, ça marche pas sur les autres planètes, mais bon, passons. Et il te dit, il a 2000 ans. Non, 2000 ans, c'est pas correct. Sur Terre, il y avait quand même des formes de vie évoluées il y a 2000 ans. Faut pas déconner. Ouais. Et accessoirement, ce serait à l'origine de toute forme de vie de la planète. Donc, les marmottes, les éléphants, tout ça, c'est le même ADN.
Le même ADN. Voilà.
Que répondre à ça?
Sans compter les amas de cadavres dans les.
C'est la génétique pour les nuls, c'est ça?
En même temps, on arrive bien des amis.
Ça, c'est bien la thématique.
Bon, stop. On repart dans le pinaillage. Donc, vous pouvez me dire dans les yeux là que vous n'aviez pas d'attente et que c'était pas pour ça que vous l'avez trouvé en partie mauvais.
Justement, si je peux juste terminer, du coup, je comparais ça en fait. Moi, ça m'a fait exactement la même chose. Il se trouve que par hasard, je suis un fan de Mass Effect. Donc, la fin de Mass Effect 3, ça m'a fait hurler, mais pas parce qu'on dit oui, c'est non, mais vous avez tous râlé parce que se termine mal, absolument pas, ça m'aurait posé aucun problème que ça se termine mal, c'est juste que ça a été mal tourné, il n'y a aucune explication, il y a plein d'incohérences, on est dans l'attente totale, et en fait, on est juste déçu, la fin de Lost. Voilà, par exemple aussi, exactement le même style, c'est juste parce que ça laisse trop de questions.
Donc, suite du tour de table, Corentin.
Moi j'avais des attentes, bien sûr, j'avais des attentes évidemment, et je pense que de toute façon, à partir du moment où tu vas acheter une place de cinéma pour aller voir un film, t'en attends quelque chose. Quoi qu'il arrive, si tu vas en plus pour payer 9€.
Et dans les attentes, est-ce que vous attendiez pas franchement à une ressourcée d'alien, quoi? Un reboot d'alien, mais avec de l'alien dedans?
Non, moi j'ai pas été. J'ai été vraiment essentiellement déçu par le scénario, pas par la vision qu'il avait, Scott, pas par les ambitions qu'il a eues à travers ce film. Ce qui m'a déçu, c'est la construction, c'est des incohérences dans le montage, comme il y en a toutes les 30 secondes. Là, effectivement, c'est décevant. Après, ce que je trouve aussi extrêmement décevant, c'est que peut-être qu'il faut attendre d'avoir un Blu-ray pour avoir une version définitive, la vraie version du réalisateur, ce qui est quand même extrêmement dommage et ce qui se fait de plus en plus maintenant.
En même temps,
c'est-à-dire que on n'a rien à foutre de sortir un truc qui n'est pas fini.
Ouais, mais la version ciné, elle suffit elle-même. La version
normalement, oui.
Normalement,
mais combien de films se sont rattrapés au fil du temps avec
des
touristes qui disent oui, il faut voir la version longue parce que la version courte, etc.
C'est comme si toi, ton boulot, tu dis à ton patron, bon, moi, je suis désolé, ça, c'est naze. Par contre, dans 3 mois, là t'auras vraiment ce que tu voulais. Alors, mais non, c'est pas vrai.
On contre-argumente simplement. On prend Le Seigneur des Anneaux, même en film en soi, il s'auto-suffit parfaitement. La version longue apporte beaucoup d'éléments.
Mais
le film en soi se regarde.
Ça marche très bien.
Le film en question dure très longtemps et dure 2h20. Il faut vous rappeler que vous êtes diffuseur et que vous avez l'impératif que ça se diffuse en salle. Et les salles vous disent si votre film dépasse tant. Par rapport à tel public, je refuse de le passer et je veux un recut.
Ouais, mais ça va être
le prochain Batman là qui va sortir, il dure 2h45.
Ouais.
Oui, mais t'as des limites en fonction du public. Les Harry Potter ne doivent jamais dépasser les 2h30 parce qu'ils savent que leurs gosses ne tiendront pas.
Titanic faisait 2h, on s'en rappelle tous que bon, après on aime ou on n'aime pas Titanic, mais moi je pense que c'est des faux arguments à mon avis.
Mais non,
pas ce que tu dis, parce que tu dis toi.
Alors là, c'est qu'on est quand même dans un cinéma qui a un art intégré à un système économique, etc. Donc forcément, il y a des problèmes de production, il y a des
très longs comme tu viens de le dire.
Il y a des problèmes, ils ont peut-être coupé dans le scénar pour des questions de censure entre guillemets, où il y avait des scènes qui sont peut-être
que les scènes qu'ils avaient déjà fait tourner pour eux, quand ils ont revisionné, ne s'adaptaient mal, s'inséraient mal dans le film. Ils disent bon, mais voilà, tant pis, on préfère faire un cut en faisant une ellipse et tant pis si vous ne comprenez pas tout, et si tant pis s'il y a des choses qui vous manquent quand vous voyez le film.
Mais
au moins on vous insère pas.
Allez, je pense que la discussion va se poursuivre en dehors de studio parce que nous allons rendre l'antenne bientôt. Qu'est-ce que tu avais un truc à ajouter?
Je voulais juste répondre à ta question par rapport aux attentes qu'on avait. Enfin, juste pour te dire que moi j'avais au départ j'avais pas forcément d'attentes. Mais c'est au fur et à mesure de l'entendre dire certaines choses que ça a créé de l'attente, le premier trailer, etc. J'en ai pris plein la figure, faut le dire.
C'est vrai qu'il était ultra efficace.
Le retour de papa aux affaires aussi, attention, Et puis, il a quand même craché sur tous les autres films. Hein. Il faut être réaliste, hein. Je veux dire, que ça soit dans le Blu-ray, dans le truc, il s'est pas gêné. Donc, tu arrives, et pour moi, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, à un moment donné, la base d'un film, pour moi, c'est l'histoire. C'est tout. Après,
moi je suis pas d'accord. Pour moi,
le visuel, tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas suivre un type et aller sauter d'un pont si à un moment donné t'as pas d'argument derrière, quoi. C'est à dire que là, et puis attends, je suis désolé par rapport aux autres films, pourtant Dieu sait que j'aime pas le 4, hein, avec le newborn et tout ça, et les créatures là, sans déconner là, quoi. Les poulpes, 12, mais c'est quoi cette production design? Sérieux, quoi.
Geiger,
bordel. Et le mec, il te fait quoi? Il te fait des poulpes et un cobra, quoi.
C'est vrai que le poulpe, bref, on va terminer sur le poulpe.
Et on rajoute des zombies gratos.
Et oui, c'est vrai. Bon, allez. On va clôturer là. Moi personnellement, je vous ai posé la question sur l'attente parce que moi franchement j'avais des attentes. J'ai mis une bonne partie du film à me dire ah ok, c'est pas ce que j'attendais, on va partir sur autre chose, et le temps que je fasse ça, le film était déjà un peu passé, mais ok, je dis, ça m'a pas empêché de savourer. Par contre, il y a quelques scènes qui fonctionnent bien et que ce serait mentir de dire que j'ai pas été scotché sur mon siège à certaines séquences qui sont, d'un point de vue de mise en scène, sont absolument magnifiques. Après, c'est vrai que quand tu sors du film, t'as l'impression d'être passé à côté d'un gros truc et tu sais pas si c'est un bien ou un mal d'être passé à côté. Est-ce que c'est justement le côté insaisissable qui fait le charme de Prometheus ou si ça en fait son défaut? Mais je pense que de toute façon, comme tout film qui joue sur les ellipses et qui sont des mastodontes, il faudra les revoir et il faudra aussi laisser du temps parce qu'il y a des langues qui vont se délier, on va savoir comment le film a été produit, etc. Donc il va falloir
attendre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu verras qu'avec le temps, les films qui vous restent sont souvent ceux où tout n'est pas
tout n'est pas expliqué. Mm-hmm. Après, autre chose qu'on a zappé pendant du fait qu'on parlait de Prometheus, un avantage du film, c'est le côté viscéral. Il y a des moments où j'étais super mal à l'aise et j'étais content d'être vachement mal à l'aise parce qu'il arrivait à me redonner une sensation que tu n'as pas dans les autres.
Mais toi, c'est un côté Mickey, je rigole.
Voilà.
Même, j'avoue que personnellement, j'ai vu aucune scène qui m'a pris au trip, quoi. Enfin, j'ai regardé ça, je pourrais regarder l'effet de l'amour, quoi.
Putain, l'auto-césarienne.
Pour moi, cette scène, elle est à la bannière, incomplet, quoi.
Ah, mais non,
allez,
elle est géniale.
On va essayer de clôturer.
Le coup des agrafes, s'il vous plaît.
De poursuivre cette
discussion. Il n'y a pas de diagnostic pour les femmes.
L'émission, si vous voulez bien vous taire, qu'on fasse le générique de fin.
Non, on va faire une petite revue de presse quand même, quoi.
Ravi d'apprendre.
Comme on a parlé, en plus, on a parlé de cinéma pendant pratiquement 2 heures, et ce sont deux magazines de cinéma. Aucun des deux ne parle de Prometheus. Hein, il fallait chercher quand même, quoi.
Alors, je crois que ce film est sorti après la sortie de Prometheus.
D'accord.
C'est plus d'actualité.
Alors, tout d'abord, SoFilm. Alors, dans la lignée de SoFoot, hein, pour les gens qui connaissent SoFoot, eh bien, c'est écrit par les mêmes, hein, pratiquement, quoi. C'est la même équipe. Qu'est-ce que je voulais.
Alors, ils avaient déjà sorti un hors-série, c'était Pédale, sur le cyclisme.
Oui.
Alors, j'en vois qu'il rigole. Pédale, point d'exclamation. Hein,
non, le nouveau Pédale, il y a un nouveau Pédale qui est prévu, qui va sortir à la fin de ce mois ou au début du mois de juillet. Mais c'est un hors-série spécial pour le vélo.
Ouais.
Et là, on a donc ce nouveau SoFilm. Et pour les gens qui connaissent SoFoot et tout, qui lisent régulièrement SoFoot, sont habitués un petit peu au ton. Un petit peu irrévérencieux, au décalage qu'il peut y avoir entre l'actualité et les gros titres actuels et le traitement qui peut en être fait ou pas du tout dans ce mensuel. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour ce film en fait. Je disais bon bah il parle pas de Prometheus, non bah il y a que dalle. On a Ricky Gervais en couverture, bon bah ça c'est une bonne chose.
Très bonne.
Et ensuite on va avoir des reportages ou des interviews un petit peu décalées. Alors j'ai pas eu le temps de tout lire. Hein. J'ai lu l'interview croisée entre Jacques Rosier et HPG. Et là, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, hein, parce que Jacques Rosier, c'est quand même un réalisateur qui doit cartonner par film à 2000 spectateurs sur l'ensemble de la France. Alors qu'HPG fait vachement mieux, mais lui n'est pas diffusé dans les salles, vu qu'il n'y en a plus des salles pour son genre de film. Il y a également les petites rubriques qu'on aime bien nous dans SoFoot, hein, Thomas, tu te rappelles. Et donc, il y a un petit peu la même chose, quoi. Mais là, il y a aussi un truc dont je voulais absolument vous parler. C'est le top 10 des meilleures répliques avant de se donner la mort. Alors vite fait 2 ou 3.
Vite fait 2 ou 3
histoire de savoir si vous connaissez votre cinéma, quoi. Tout d'abord, on n'a pas le droit de tuer les gens et c'est pour ça que vous allez tous crever. Oula. Alors ça, c'est un des fleurons du cinéma.
C'est un film
quand même.
C'est Schwarzy, non ?
Non, pas du tout. C'est de Virus Cannibal de Bruno Mattei.
J'ai retenu les dialogues de celui-là.
Voilà. On a aussi celui-là, il est vachement connu quand même. Aujourd'hui, tous les Juifs pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal.
Ah, le grand pardon.
Voilà. Même pas à la fin de la phrase, tu vois, quoi, direct. Il y a également la très connue. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que en tant que flic, je devrais t'arrêter. La mauvaise, c'est que je viens d'entre renvoyer, que j'en ai rien à foutre.
C'est Clint Eastwood dans La Manière.
Pas du tout. Non. C'est James Woods dans Cops.
Ah.
Ouais. Et justement, c'est vrai, j'ai tué des femmes et des enfants, tué tout ce qui marchait. Voilà, ça c'est impitoyable. Et une dernière pour la route. Là, tout le monde connaît cette réplique fameuse. Yippee-ki-yay, motherfucker!
John McClane. Sinon, il y avait une réplique de Clint Eastwood qui dit, il doit y avoir un milliard de raisons pour que je t'épargne, mais là, j'en vois aucune.
Ouais. Non, mais sinon, moi, je conseille à tous d'acheter au moins ce numéro 1, hein, parce que
surtout que c'est fait par une bonne équipe de Nantais, de Capricci Film.
Et allez, il fallait qu'on parle de
Nantes. Entre autres, évidemment.
Et on retrouve quand on se fout les copines des acteurs en pin-up à la fin.
Il n'y a pas le cahier rose.
Ah, c'est ballot. Et sinon, pour le deuxième magazine, c'est un magazine assez particulier.
Septième dimension.
Puisque l'auteur de ce magazine est parmi nous, puisque c'est Eddie.
Oui.
Donc ouais. Tu parles-nous de Septième Dimension?
Bah Septième Dimension c'est un magazine en fait alternatif hein, c'est un fanzine hein, donc on le fait à deux, on l'imprime, on le produit, on fait tout nous-mêmes, la maquette, les articles, les interviews. Et puis il y a pas forcément d'actu en fait, on crée l'actu. C'est un peu ça. Hein. Et puis c'est l'idée de départ du magazine à la base, hein, sans trop en parler, c'était un petit peu de faire différemment de la presse ciné française quoi. C'est-à-dire de rester un peu plus humble par rapport aux films qu'on chronique, c'est-à-dire qu'on n'est pas des réalisateurs, hein, donc on est avant tout des passionnés, et d'avoir ce regard passionné, faire des trucs un peu plus détachés, quoi, des dossiers un peu rigolos.
D'ailleurs, si t'aimes les petites chroniques rigolotes, il y a tout un truc sur les acteurs alcooliques.
Alcooliques, voilà, les acteurs alcooliques. Donc voilà, c'était faire une biographie d'acteurs, mais différents, les alcooliques.
Ouais, il y a pas de problème. Bon, moi, je l'ai juste feuilleté, hein, parce que bon, bah, vous venez de le ramener, quoi. Et puis bon, moi, je retrouve pas mal de Man Movie dans, pas mal d'esprit de Man Movie dedans, ne serait-ce qu'au niveau des
la maquette.
Non,
des nichons de temps en temps.
Non, des commentaires de photos quoi.
Oui, ouais. En fait, c'était de retrouver un petit peu le Man Movies de l'époque, hein.
Voilà, on est d'accord.
On est d'accord, hein. Okay. Donc avec les private jokes dans les commentaires sur les photos,
absolument,
etc. Voilà.
Absolument. Ouais, ce qui a un petit peu disparu d'ailleurs. Hein,
voilà.
Enfin bon.
Et donc pour acheter ton magazine,
où est-ce qu'on le trouve ?
Eh ben, c'est 7emedimension.fr. Donc on a un site internet. Vous le commandez là-dessus. Voilà. Ça se fait par correspondance.
Il y a pas de kiosque, rien. C'est
non. Après, on est à Movie 2000 sur Paris. On est dans 2-3 kiosques, mais l'idée c'est de commander directement sur le site avec un abonnement.
Septième Dimension, tu peux l'écrire ?
Alors SEP7IEMEDIMENSION.fr. Voilà, un 7 à la place du T, du 7ème. Je sais, c'est pas évident, mais ça se.
La fréquence de diffusion, c'est quoi ?
Alors, pour l'instant, on va dire que c'est en stand-by pour restructuration. Donc, okay. Voilà, parce que ça se fait quand on a le temps, quoi. Mais normalement, c'est du trimestriel. Mais là, on va reprendre à la rentrée, je pense.
Ok. Parce que là, j'ai le numéro de printemps, donc 2011, c'est le numéro.
Ouais, mais je vais le rééditer en changeant tu vois, je vais mettre été 2012, hein. On va garder les mêmes. Comme ça sera bon.
Est-ce qu'il y aura du Prometheus dedans ?
Non, parce que le but c'est pas de traiter des films qu'il y a dans la presse ciné quoi. C'est vraiment des réalisateurs qui ont pas forcément d'actualité dans la presse actuelle, ou des indépendants américains qui ont sorti des films. Par exemple, on a beaucoup parlé des films d'Eduardo Sanchez qui a fait le projet Blair Witch et qui a sorti plein de films et qui sont sortis en direct ou DVD dans les bacs et tout le monde s'en fout. C'est génial pourtant.
Voilà. Ouais,
c'est un peu l'idée.
Ça commence à parler d'Entai derrière. Il est temps de clore.
Bon, il est temps de clore alors.
Oui, il y a du poulpe, c'est vrai qu'il y a du poulpe. Il y aura du poulpe, on mettra du poulpe hein, dans.
Bon, ben c'est sur ça que nous allons nous quitter avec le pitch. Allez, JB, tu zappes, peux-tu faire le résumé de l'émission s'il te plaît, parce qu'il n'y a pas de résumé à faire puisque ça a été une émission spéciale Prometheus et Alien.
Bon ben non d'un placard je zappe aussi. Donc vous écoutez FMR sur 49.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Xavier sera peut-être là, on ne sait pas encore.
Non.
Non, eh ben on sera très content de revenir.
Ce sera peut-être samedi prochain. Le supplément week-end revient à un rythme un peu plus classique avec de la chronique BD, de la chronique ciné, de la chronique télé.
Ouais.
On sait pas encore quoi, mais voilà, ce sera pour. Je pense que le programme BD sera plus pour les enfants, les jeunes
Alors,
enfants.
Alors tu sais que l'un des personnages principaux, l'un des acteurs principaux dans Prometheus, c'est un mec qui a joué dans Newport Beach.
Lequel ?
Marshall Green.
Ah, celui qui ressemble à Tom Hardy.
Ouais. Ça c'est génial. ça fait que confirmer certaines choses.
Dans c'est tous clair. Les cas, chers amis auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, et bonne semaine.
Merci.
Au revoir.